Donc je m'appelle Harold Épineux, je suis ravi d'être ici, merci de votre invitation et je vous invite à reprendre notre voyage à travers les frontières du droit avec cette troisième et dernière table ronde de la journée. Des frontières mouvantes, des professions judiciaires, des frontières mouvantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette expression étrange. N'attendons pas d'une frontière qu'elle fixe, qu'elle fige, qu'elle marque une limite qui sert de repère. Alors, pas d'ambiguïté, je ne me désolidarise pas du tout du titre choisi par les intervenants, bien au contraire. Je trouve que le paradoxe qu'il pose est très intéressant, et c'est celui que nous allons explorer, un paradoxe qu'il annonce s'agissant des professions, et qui plus est de professions qui, pour la plupart, sont des professions à statut. Donc c'est à ce voyage et à la description de ce paradoxe que je vous invite, sans plus tarder, à travers trois exemples pour cette table ronde, trois intervenants. Nous avons Paolo Napoli, tout d'abord, qui nous permettra d'avoir un voyage dans le temps, dans l'espace, et de nous parler du juge et du policier, les prérogatives des uns et des autres, un détour par Goethe, voyage aussi donc dans la littérature. Nous écouterons ensuite Antoine Vauchez nous parler des espaces politico-administratifs et de barreaux d'affaires qui s'imbriquent l'un l'autre et qui se croisent. Et puis, nous aurons une troisième intervention de Frédéric Schoenaerts sur le management qui est entré au tribunal, et on en verra quels sont les effets. Alors, trois interventions, quatre, puisque Emmanuel Charrier nous fera profiter en tant que discutant également de son expérience et de son voyage ou de son expérience personnelle à travers les frontières des professions judiciaires. Alors, puisque l'heure tourne et elle tourne vite, je voudrais tout de suite donc commencer par vous présenter notre premier intervenant, Paolo Napoli. Nous sommes chez lui, il est directeur d'études à l'EHESS, il enseigne l'histoire des catégories et des pratiques normatives. Après avoir travaillé sur les aspects juridico-politiques de Foucault et sur la police en France et en Allemagne, au XVIIIe ou XIXe siècle, thème qui n'est pas étranger à l'intervention d'aujourd'hui, il s'intéresse à d'autres sujets comme les racines canonistes et théologiques de la pratique gestionnaire. Ça intéressera aussi une autre intervention de notre table ronde. Et il achève deux recherches, une sur le charisme et une sur le cas judiciaire, un cas judiciaire portant sur la notion de souveraineté mutilée. Alors ce premier voyage... entre le juge et le policier, c'est un peu Maigret et Salomon, pour reprendre l'expression de Robert Badinter, essayant de qualifier, en prenant deux personnages, un seul, le juge d'instruction, mais on remonte un peu plus loin et pas l'héritier du lieutenant criminel de l'Ancien Régime, en vous écoutant et à travers ce voyage donc dans la littérature de Goethe. Je vous donne la parole, Paolo Napoli.
Oui, merci beaucoup. Pour tous les organisateurs d'abord. Et je vais aller assez vite parce que je vois que le temps est assez restreint. Et donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas un cas de droit à littérature. Hein. Donc, et ce n'est pas non plus une question qui porte fondamentalement sur la profession, mais plutôt sur la fonction. Et je m'appuie sur un dossier, une affaire plutôt que sur un cas. Hein. Donc, ça ferait plaisir plutôt aux sociologues. Mais tous les arguments sont aussi techniques, parce que le cas en question est un cas qui se développe en 1816 dans les grands duchés de Saxe-Weimar-Eisenach, où depuis longtemps règne le grand-duc Karl August. Pour le situer, c'est le même Karl August qui était à Valmy en 1782, et Goethe était avec lui précisément. Entre-temps, des choses se sont passées. En fait, il y a une constitution, une charte constitutionnelle plutôt, qui a été éditée par ces grands ducs. Et quelques mois plus tard, la publication de cette charte constitutionnelle, où il y a une charte constitutionnelle, où il y a quand même certaines libertés qui sont accordées à la population, ce n'est pas une véritable constitution, paraît les premiers numéros d'une revue qui s'appelle, de manière aujourd'hui on dirait sinistre, Isis, et qui est dirigé par un professeur d'anatomie qui est Lawrence Oaken, qui est un esprit assez audacieux et provocateur, qui décide immédiatement de tester la portée réelle de la liberté de la presse consacrée par la Constitution. Et donc annonce déjà dans son article inaugural que le futur même de la revue démontrera jusqu'à quel point le grand-duc est prêt à laisser s'exprimer les opinions libres. Donc le numéro suivant se caractérise par une attitude très peu respectueuse des autorités publiques et par un langage outrancier et insouciant du style classique et des conventions académiques. Quelques mois après, le mois de mai, la patience du grand-duc atteint ses limites. Il réclame l'intervention des autorités suprêmes de police qui veillent à la sûreté publique et demande simultanément l'avis d'un de ses collaborateurs, les plus fidèles depuis toujours, à savoir Goethe. Il y a toute une correspondance qui se développe entre les deux personnages et dans un document du 5 octobre, donc dans une lettre du 5 octobre, Goethe explique pourquoi l'affaire Isis doit être traitée moins par l'application des règles de droit que par la voie policière. Alors, ce qui est intéressant ici, qu'il n'y a pas dans l'explication de Goethe la définition du portrait du policier ou du portrait du juge. Il n'y a pas un type idéal qui est déterminé. Mais les raisonnements se développent à partir des argumentations pratiques. Donc il y a véritablement un travail de terrain à partir des situations concrètes. Juste pour situer la question qui n'est pas nouvelle dans ce grand duché d'Allemagne. Une vingtaine d'années avant, peut-être il y a un cas polémique que peut-être vous connaissez beaucoup plus, que c'est la question de l'athéismusstreit, donc la polémique sur l'athéisme, qui avait toujours au centre de l'attention l'université de Jena, et les mêmes enjeux et les mêmes acteurs institutionnels, donc les grands-ducs, Goethe, avec les changements, en tout cas, de l'inculpé. Il ne s'agissait plus de ce Lorenz Oken, mais du philosophe Fichte. Que vous vous souvenez peut-être qu'avait été appelé en 1794 à l'université de Jena, et Fichte, il donne des cours qui lui valent immédiatement la réputation de jacobin. Des bruits arrivent aux oreilles du souverain qui commence à se méfier du caractère quelque peu subversif à l'égard de Dieu des idées professées par Fichte. C'est son conseiller, donc particulier, donc Goethe, à l'époque, se montre à cette occasion plutôt solidaire avec Fichte. Alors que l'affaire frappe l'opinion publique et se termine, 5 ans après, par le licenciement de ce dernier, donc de Fichte, et l'intimation aux professeurs universitaires d'éliminer de leur cours tout passage susceptible de mettre en doute l'existence de Dieu. Alors, si on regarde toute cette correspondance qui se développe entre Goethe et les grands-ducs, on s'aperçoit que tout ce qui se joue là, c'est une question de normativité, au fond. Celle de la manière la plus adéquate de maîtriser la gêne occasionnée par la spéculation philosophique. La disproportion entre l'urgence du remède que les faits contestés exigent et la lenteur solennelle de l'appareil pénal, avec lequel toute la journée déjà, c'est au centre effectivement de la polémique, et donc d'après Goethe, c'est toujours la voie la plus expéditive qui se laisse préférer. Ce matin, on a évoqué aussi la question de la justice sommaire. Parmi les prérogatives de la justice sommaire, il y a ces caractères temporels d'aller vite. Là, on n'est pas dans la justice, mais il y a tout ce qui est intéressant dans cette correspondance, qu'on est avant la bifurcation. Quelle est l'option qu'on peut adopter? Et tout l'argumentaire se joue dans la fondation d'une démarche ou de l'autre. Dans le cas de l'affaire Isis et déjà à l'époque de l'affaire de l'athéisme Streit, il n'y a qu'une mesure convenable, celle de la police. Donc, démarche juridique ou judiciaire et démarche policière composent les deux facettes d'une rationalité gouvernementale qui se nourrit de cette disjonction complémentaire. Si vous voulez, c'est aussi une correspondance qui met en lumière, certes, les frontières, mais je dirais plutôt la limite constitutive de la loi et de la dimension judiciaire. Donc, la voie policière à l'ordre, qui emprunte souvent les stratégies de la prévention, face à une voie judiciaire qui intervient ex post pour sanctionner l'infraction. Alors, revenons à l'affaire Isis, parce que c'est là-dessus que Goethe dans son mieux. Sur l'opportunité d'une intervention policière, Goethe dit des choses qui sont dignes de la plus grande attention. Il regrette que déjà on aurait pu gérer d'office par la police toute cette affaire, dont l'intervention prompte aurait étouffé l'audace intolérable qui s'accorde à la revue. Mais il est désormais trop tard, il faut trouver la bonne méthode pour désamorcer les conflits. Il examine tout d'abord les trois mesures envisagées par les comités des notables auxquels les présidents du Land avaient confié les dossiers ISIS. Quelles étaient les trois mesures possibles que ces comités des notables avaient évoquées? Rappelez à l'ordre Hawken, hein, le professeur qui dirige la revue. Menacer d'interdire la publication. Troisième, procéder par la voie judiciaire et satisfaire les droits des personnes lésées. Alors, dans le cas de la première mesure, le rappel à l'ordre, Goethe précise que pour rappeler oralement l'ordre, il faut que Hawken soit physiquement présent devant le comité des notables investis de l'affaire. Mais cette seule éventualité fait immédiatement surgir l'interrogation. Comment les convoquer? Simplement ou manu militari? Et quoi faire si Hawken accepte de se présenter et si, grâce à son habileté rhétorique, ses mots se révèlent être particulièrement convaincants, ce qui est loin d'être impossible. Alors, à ce moment-là, comment devrait-on se comporter à son égard? Donc vraiment, c'est tout le raisonnement de Goethe, c'est loin de raisonner en termes de principe, c'est vraiment une sorte de phronesis appliquée au cas concret, l'art de la prudence extrême. La deuxième option, qui est prise en considération par Goethe et qui est envisagée par les comités des notables, on monte d'un cran après les rappels à l'ordre, éventuellement, c'est la menace d'interdire la publication. Est-ce que la préfiguration d'une telle issue serait à même de faire changer de nature une revue qui se caractérise par son style extrême? Goethe n'y croit pas trop. La modération ne convient pas à une personne comme Hawken et son organe, la revue, qui sont constitutivement, dit-lui, voués à l'excès. Alors, la question qui se pose, et d'un point de vue conceptuel, ça c'est fondamental, parce que sous l'histoire de très longue durée du droit constitutionnel, ça laisse des traces très fortes. Alors, pour exprimer cette impossibilité d'opposer une barrière à la folie, à l'absence de modestie, à l'impudence, donc, à l'absence de limites, à savoir à des états d'esprit et des attitudes en soi exorbitants et inapprivoisables, les conseillères, donc Goethe, posent une interrogation à la fois simple et capitale en termes de rationalité normative. Dit-il, je le cite parce que ça, c'est, les mots sont très importants, hein, « Où trouve une mesure, dit-il, Maßstab, pour ce qui n'a pas de loi, Gesetzlosigkeit ?» Alors, les critères, c'est exactement ce que se pose le problème. C'est, on a affaire à un objet qui ne tolère pas la loi, comment le maîtriser? Par quel instrument? Il faut s'inventer un instrument ou il faut le repérer s'il y en a déjà. Donc, c'est l'effet, d'une certaine manière, qui détermine la fonction régulatrice. Donc, un fonctionnaire qui connaît bien les catégories du droit public de son temps, il faut toujours se rappeler que Goethe faisait partie de ce cercle des dichters juristes, hein, donc des poètes juristes. Donc Goethe esquisse avec élégance la tension conceptuelle existante entre deux formes de normativité, la loi et la mesure. Et à ses yeux, on pourrait même dire que la mesure est l'épitaphe de la loi. Là où la force générale de la loi se montre incapable de faire régner l'ordre, c'est dans les potentialités de la mesure qu'il faut chercher les critères réglementaires ponctuels qui conviennent à la situation concrète. Évidemment, quand on parle ici de mesure, ce n'est pas un concept idéal. La mesure, c'est effectivement l'acte concret qui est adopté pour dompter une situation autrement ingérable. Tout comme la nécessité, l'excès aussi ne connaît pas de loi. Donc, Goethe écarte les arrangements et subtilités casuistiques pour ne parvenir qu'à une seule décision drastique, l'interdiction de la publication. Il faut suivre encore ce raisonnement parce que c'est très intéressant dans la mesure où il comprend que la menace reste un remède interlocutoire et donc inefficace. Si la revue est destinée à survivre, qui pourra vérifier, se demande Goethe, qu'elle respecte les bonnes mœurs et ne franchit pas les limites du supportable? Et que faire, s'interroge toujours Goethe, dans un crescendo de soucis, hein? Si un esprit rusé et brillant comme aucun utilise un style ironique qui déguise bien le caractère insultant de son propos. L'effet nuisible se produit et les personnes insultées risquent de ne pas avoir les appuis légaux pour se plaindre. Donc, Goethe imagine toujours la situation où le droit n'a pas de prise sur les personnes. Dans ce vide normatif, où les limites de la loi peuvent être totalement démontrées et, et le juge n'a pas les moyens pour intervenir, qui doit faire régner l'ordre? Qui doit faire la justice concrète, disons? Donc, la défiance du droit devant ces catégories dialectiques est flagrante. La déficience du droit devant ces stratégies dialectiques est flagrante. Et Goethe semble s'acharner avec plaisir à les démasquer. Il s'agit d'intervenir sur ce terrain laissé vacant par les catégories juridiques et de les baliser à coup d'autorité en anticipant les événements. Donc la sanction préventive devient aussi la solution la plus judicieuse, peut-être pas la plus juste. Sinon, l'entière assise sociopolitique du land sera ébranlée par les attaques d'aucuns, car ses collègues et finalement le souverain lui-même et sa famille ne resteraient pas à l'abri de sa critique iconoclaste. Dit Goethe, il faut adopter maintenant la mesure, c'est pour parler de Maßregel, qui mériterait d'être prise déjà au début de cette histoire. La revue doit être aussitôt arrêtée. Or, nous voyons bien qu'il y a une certaine sagacité métrique de compte tenu qu'il parle toujours de mesure, hein, de Maßregel et de Maßstab de Goethe, qui affleure de nouveau à la surface de cette prose décidément bureaucratique. Il n'y a qu'une mesure de l'exécutif qui soit même de remédier à la situation. Car c'est précisément d'un antidote médical, voire chirurgical, qu'il s'agit. En fait, tous les discours de Goethe empruntent d'emblée une tonalité organiciste qui les pousse même vers des considérations, pour ainsi dire, hormonales, sur la nature de la mesure préconisée, à savoir l'interdiction de la publication. Il arrive même à figurer des prérogatives sexuées de la police. Alors là, il y a une autre frontière dans la frontière, hein, qui est l'institution chargée naturellement de la tâche, et sont revendiquées avec une certaine conviction. Dit-il, il ne faut pas craindre les conséquences d'une démarche virile. Il parle d'une démarche virile, männlichen Schritt, donc d'un pas viril, d'une décision radicale. Seulement à cette condition aura-t-on le sentiment d'avoir opéré d'une manière juste, l'hésitation étant juste et toujours gênante. Et donc, en interdisant la revue, on estompe l'hémorragie. L'amputation d'une jambe est plus virile, encore ça va bien, qu'une morte lente. Donc, police virile et coupe chirurgicale. Voici donc le dispositif pour désamorcer les cas ISIS. La préoccupation majeure dans l'esprit de Goethe, qui, une fois de plus, me semble-t-il, résonne en gestionnaire plutôt qu'un homme de droit, consiste à réduire l'impact public du cas et à favoriser ainsi un oubli rapide. En fait, sa stratégie est comment esquiver le tribunal. Il ne faut pas arriver au tribunal. À quoi bon troubler la tranquillité d'une population traditionnellement obéissante aux ordres éclairés du grand-duc en amplifiant des événements qui pourraient être altérer les esprits? Sine strepito, disait ce matin, et sine figura judici, non, disait ce matin Simona Cerutti. Eh bien, c'est à peu près la même situation là. Il faut éviter le scandale, il ne faut pas mettre en place un système judiciaire avec tous ses formalismes et surtout avec tout son système de publicité. Donc, une option consisterait à se situer du côté de la position individuelle, aucun la revue, selon la chaîne sujet, droit, procès. L'autre option, qui est ici souhaitée par Goethe, est celle qui vise le bon ordre de la population, selon la chaîne collectivité, police, gouvernement. Alors, si le second terme, si la seconde démarche de l'alternative est virile, le premier est plutôt timide et circonspect. C'est ce que Goethe, par ailleurs, identifie comme l'ängstliche rechtliche, c'est-à-dire le droit qui est freiné par la peur. Donc, tout l'intérêt, tout ce qui est dans la tête Goethe, c'est d'éviter la transformation du scandale académique en différend judiciaire. Là, encore une fois, il raisonne en termes préventifs. Il se préfigure toute la situation et dit il ne faut pas arriver au juge, il faut trouver une autre manière pour régler l'affaire. Et donc, il préconise une allure masculine incarnée par la police, alors que la justice, par son féminin éternel, oserait-on dire, tranche les cas sans pour autant résoudre les problèmes. C'est la raison pour laquelle il écarte avec fermeté la troisième hypothèse envisagée par les comités des notables, à savoir la saisie du tribunal. Et voilà pourquoi il dit qu'il ne faut pas arriver au tribunal, il ne faut pas arriver à la justice. Si aucun publie dans Zizis les actes du procès et affirme que personne ne peut être puni par le simple fait de raconter la vérité, et il se donne ainsi les moyens de répéter les insultes déjà adressées à plusieurs notables. Ça, c'est un danger. Dans ces cas, il pourrait également renouveler ses griefs à la constitution du Grand-Duché. Donc, Goethe, il est naturellement averti en matière de récit oblique. Et donc, attire l'attention sur les effets rhétoriques d'une telle éventualité. Rien que le fait de publier les actes du procès permettrait à aucun de réaffirmer ce qu'il a déjà dit d'une manière insultante, sous la forme d'être des actes officiels. Qui pourrait jouer le rôle de procureur instructeur contre aucun, dit encore Goethe, et qui serait éventuellement son juge dans une matière aussi atypique? Si la faculté était appelée à résoudre ces différends, aucun trouverait probablement plusieurs collègues prêts à être solidaires de lui et à partager ses vues révolutionnaires. L'épilogue serait néfaste. Au lieu de le condamner, cette juridiction spéciale finirait par le célébrer. Mais alors, il y aurait éventuellement le recours à l'autorité judiciaire authentique, ordinaire. Mais ça, c'est un danger, parce qu'il y a des inconvénients aussi pour cette démarche. Selon Goethe, c'est un problème d'adéquation du fait au droit. Est-il convenable, dit-il, hein, il utilise le mot « schicklich hein, », qu'un sujet relevant de la vie interne à l'université soit jugé par un cours judiciaire, alors que l'autorité la plus indiquée serait le souverain lui-même, dûment assisté par son conseil secret et une fois entendu l'avis des représentants des États? Au fond, dit-il, la conduite d'aucun se situe au carrefour entre les crimes de lèse-majesté et l'attente à la raison d'État. L'infraction ne concerne pas les droits pénals, mais un droit éminemment politique. La stabilité d'une constitution, autre que celle renfermée dans une charte formelle indiquant un niveau normatif supérieur. Il s'agit plutôt de la constitution comme ensemble des facteurs sociaux et institutionnels qui forment la structure et l'histoire concrète d'une organisation politique. Donc, en essayant de minimiser l'affaire par son expulsion du champ de visibilité dans lequel un procès quelconque, universitaire ou judiciaire, l'aurait projeté, Goethe dénonce la portée non mesurable selon les paramètres ordinaires du droit. Et conclut, non, ce n'est pas absolument pas une question de droit. Keineswegs ist eine Rechtssache. Cette histoire ne doit pas non plus le devenir. Comment, en fait, pourrait-on désapprouver les refus du juge de la part d'un tribunal éloigné et étranger au contexte des événements? C'est une affaire de police qui doit être évaluée et résolue sur place. Juste, et là je vais terminer bientôt, juste j'attire l'attention sur les cas tout récents, qui a des analogies quand même assez frappantes, de l'acteur allemand Jan Böhmermann, auteur d'un poème satirique contre le président turc Erdogan, il y a quelques mois, et la réaction de celui-ci qui s'est appuyé sur le paragraphe 103 du code pénal allemand, paragraphe 103 qui remonte au 19e siècle, par ailleurs, qui punit les offenses aux chefs d'État étrangers. Et donc, en s'appuyant là-dessus, Erdogan a demandé au gouvernement d'Angela Merkel d'appuyer sa demande d'être indemnisé à cause de ça. Ce qui a été fait par ailleurs par Angela Merkel en disant que dans un état de droit, c'est l'argumentaire qu'a donné Angela Merkel pour justifier sa position, ce n'est pas au gouvernement mais aux tribunaux qui revient la tâche de peser les droits individuels et les libertés de l'art. Et donc, le dernier mot, c'est à la justice et pas à l'exécutif. C'est exactement l'inverse de ce qu'il disait Goethe deux siècles avant. Donc, et je conclue, selon Goethe, ce n'est pas à l'autorité gardienne des lois qu'il appartient de traiter ces problèmes. Au fond, c'est plutôt une question de contrôle du territoire et de la population. Et il n'y a qu'une force compétente, la police. Donc, le pragmatisme administratif du conseiller propose en définitive de laisser décanter les choses. Il faut ignorer Eucken et interdire d'office à l'imprimeur la fabrication de la revue. La vigilance de la police empêchera que des cas semblables puissent se reproduire dans l'avenir. Juste pour ceux qui veulent connaître comment s'est terminée l'histoire, malgré les invitations préoccupées de Goethe à déjouer un mal qui n'est plus une menace mais une réalité, la revue résiste encore 3 ans jusqu'à 1819. Et à ce moment, sous la pression conjointe de la Prusse et de l'Autriche, Isis est sacrifié sous l'autel de la raison d'État. Il paraît que face à cet épilogue, Goethe serait resté assez impassible. Donc, juste pour terminer, vous voyez bien qu'à travers cette histoire, c'est une affaire, hein, c'est une affaire, ce n'est pas un cas judiciaire justement parce qu'on n'est pas arrivé là, mais ce qui est très intéressant, c'est que la dimension policière et la dimension de la justice ne sont pas déterminées en abstrait, ni par la définition du personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une distinction institutionnelle, mais la distinction se fait sur les cas. Et là où il y a des faits qui se rebellent à la loi, la Gesetzlosigkeit, qui ne tolère pas d'être soumis à la loi, alors pour ça, il faut s'inventer les moyens adéquats. Et les moyens adéquats, c'est la mesure des polices, c'est-à-dire l'application d'une manière inductive d'un terme normatif au réel en fonction de ce que le réel exige et pas en fonction d'un principe qui s'applique sous le réel. Je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup. Merci de nous faire partager ce témoignage laissé par Goethe. C'est l'analyse des fonctions de la juge et de le policier. C'est évidemment du droit aussi et du juge. Alors on découvre d'ailleurs à travers les frontières des professions un Goethe qu'on connaissait, conseiller du prince, poète, juriste, comme vous l'avez dit, et sociologue du droit, le cas échéant pas politiquement correct, mais ça ce serait un anachronisme que de le qualifier de ce mot-là. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole tout de suite à Antoine Vauchez pour le second exposé, pour la seconde intervention, qui est directeur de recherche au CNRS et au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, laboratoire de l'Université Paris 1, Sorbonne et le HESS. Vos travaux se situent au croisement de la sociologie politique et de la sociologie du droit. Vous avez travaillé sur les rapports justice-politique en Italie, sur les politiques de réforme de la justice en France. Je me rappelle d'un bouquin paru à la collection Mission de recherche droit et justice au PUF sur le sujet. Et puis vous vous êtes intéressé aussi dernièrement beaucoup à l'Europe avec différents ouvrages comme L'Union par le droit, l'invention d'un programme institutionnel pour l'Europe ou Démocratiser l'Europe. Et vous terminez actuellement un ouvrage tiré d'un rapport de la mission de recherche droit et justice sur la relation entre barreaux d'affaires et les élites politico-administratives. C'est justement le sujet de votre intervention. Toute ressemblance avec des cas ou personnalités connues sont sans doute pas fortuites du tout, j'imagine. Je vous laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président, et merci aux organisateurs de m'avoir convié pour retrouver aussi cette petite communauté de recherche sur la justice et puis d'autres gens qu'on n'a pas l'habitude de voir justement dans nos colloques. Et donc je suis très content de présenter effectivement ce qui a été, enfin ce qui est encore en cours, mais ce qui est au départ une recherche qui a été soutenue par la mission de droit et justice et qui me situe justement tout à fait dans la question des frontières. Une frontière peut-être sur laquelle on n'a pas habituellement, enfin on n'a pas l'habitude, je dirais, de porter le regard, qui est la frontière entre le barreau et les élites politiques et administratives. Et on en a un petit peu parlé récemment entre, disons, la période qui va de l'affaire Woerth-Bettencourt jusqu'à l'affaire Cahuzac, ou dans toute une série de discussions qui ont émergé autour de la question du conflit d'intérêts. Eh bien, le passage d'un ensemble d'hommes politiques et de très hauts fonctionnaires au barreau de Paris, en fait, exclusivement, pratiquement, ou barreau des Hauts-de-Seine, sinon, tels que Jean-François Copé, Dominique de Villepin, Rachida Dati, elle était magistrate, mais au sortir de la chancellerie, elle a rejoint le barreau et le barreau d'affaires, Dominique de Perben, Hubert Védrine et bien d'autres. Et puis, si on y regarde d'un peu plus près, comme j'ai commencé à le faire, du coup, piqué dans ma curiosité de politiste, hein, et qui s'intéresse au droit et qui, du coup, voyait l'aubaine, là, d'une nouvelle recherche et de nouvelles frontières, justement, eh bien, c'est, en fait, tout un segment, hein, des élites politiques et administratives qui passent aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, j'y reviendrai, dans les grands cabinets parisiens de droit des affaires. On reviendra peut-être éventuellement sur la définition de ce droit des affaires. Ce sont des anciens présidents de section du Conseil d'État, des secrétaires généraux de l'Élysée, de Matignon, des anciens ministres de l'économie, de la justice, des jeunes, en revanche, maîtres de requête au Conseil d'État, des conseillers référendaires à la Cour des comptes, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie, notamment le service de la législation fiscale, des membres des cabinets ministériels, et puis aussi des fonctionnaires des nouvelles agences de régulation qui se sont multipliées, vous le savez, de régulation des marchés, depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, c'est toute une frange de l'élite, j'essaierai de la décrire un petit peu mieux, qui rejoint aujourd'hui des cabinets d'avocats, et pas n'importe quel cabinet d'avocats, puisqu'il s'agit essentiellement de pour appeler des law firms, c'est-à-dire qu'elles ont été construites sur le modèle des cabinets d'affaires américains, et ce sont des noms qu'on connaît un petit peu, surtout qu'on est dans les milieux de la justice, Cléry Gottlieb, Gide, Auguste Edoubouzi, Darrois, Veil et Jourdain, CMS Lefebvre, etc. Alors, en soi, la chose est intrigante d'abord parce que ça n'est pas la première circulation à laquelle qu'on imaginerait. On imaginerait peut-être plutôt une circulation au sein de la famille de la justice, hein, de magistrats à avocats, par exemple. Mais cette circulation est en réalité secondaire. Aussi intriguant parce que si on se rapporte au début des années 90... les rapports entre le barreau, disons, et les élites politiques et administratives sont, enfin, les points d'intersection, je dirais, les circulations entre ces deux espaces sont pratiquement inexistantes. D'abord parce que ça fait longtemps que la République n'est plus la République des avocats, hein, le barreau n'est plus une filière de recrutement de l'élite politique, et donc cette filière s'est tarie, enfin, dans une certaine mesure. Et puis parce que si on regarde tout simplement les compositions des cabinets ministériels, vous avez, certains chiffres ont été produits, de 2 à 5% d'avocats seulement. Mais aussi inversement, parce que les mouvements de la haute fonction publique, qu'on appelle les pantouflages vers le secteur privé, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, s'orientent davantage, hein, vers, les grandes entreprises, les grandes banques proches de la commande publique ou proches des secteurs stratégiques. Et donc, ma curiosité, évidemment, a été... piqué en quelque sorte par ce phénomène. D'abord, avec un projet qui était initialement assez modeste, il s'agissait simplement de se demander mais qui étaient ces hommes politiques, ces hauts fonctionnaires. On voyait bien que le prisme du conflit d'intérêts avait orienté en quelque sorte le projecteur médiatique sur un certain nombre de hautes figures politiques, de personnalités politiques de premier rang, Villepin et autres. Assez rapidement, en regardant, on voit bien que ça touche, des segments plus larges des élites, notamment administratives. Donc le départ était assez modeste. Et puis, en constituant une base de données de l'ensemble de ces transfuges, on va les appeler, de ceux qui ont assez circulé vers le barreau d'affaires, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui était finalement assez diffus. J'ai réuni 250 cas sur 20 ans hauts fonctionnaires, justement, et d'hommes politiques, définis comme députés ou ministres, qui rejoignent ainsi le barreau d'affaires. Et en mettant bout à bout les trajectoires que j'ai reconstituées de ces 250 transfuges, ce qu'on voit émerger, en quelque sorte, hein, c'est un espace social total d'une circulation entre le public et le privé, où on voit quelque chose qui ne saute pas à l'œil nu, qui n'apparaît pas immédiatement, qui est en quelque sorte relativement invisible, mais qui est justement un espace frontière entre le public et le privé, une zone de contiguïté aux frontières de l'État qui est assez nouvelle, c'est mon argument, hein, où justement le droit, et notamment le barreau d'affaires, fait figure d'espace carrefour entre l'État et le marché. Et donc, en réfléchissant là-dessus, évidemment, c'est une réflexion sur cette frontière du public et du privé. Alors, pour repartir de ce qui est l'origine, en quelque sorte, de cette circulation, c'est un décret qui a fait suite à la fusion de la profession d'avocat avec les conseils juridiques en 1991, enfin le décret, qui permet, par voie dérogatoire, à des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de rejoindre sans examen le barreau, et ce à la condition d'avoir rempli 8 années d'activité juridique. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'interprétation qu'en a fait le barreau, notamment le barreau de Paris, c'est que fonctionnaire de catégorie A, ça veut dire aussi homme politique. 8 années d'expérience juridique, ça peut vouloir dire aussi bien travailler à la commission des lois de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Donc là, finalement, ce qui devait être une passerelle relativement étroite est fini par être un pont assez large, d'autant que, de même, la condition de diplôme en droit a été interprétée de manière extensive, permettant à des diplômes de gestion, de sciences politiques, mais pourquoi les critiquer, puisque j'en fais, des économistes, de rejoindre également le barreau. D'ailleurs, je connais des politistes qui l'ont fait. Je ne les nommerai pas. Alors, si on regarde comment cette passerelle a été empruntée, eh bien, on se rend compte que le phénomène a progressivement monté en puissance. Au début des années 90, jusqu'aux années 90, on a un transfuge par an avant, disons, le décret passerelle. Et puis ensuite, le nombre passe à 6 par an dans les années 90, puis 10 par an dans les années 2000, et puis avec une pointe toute particulière pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, où le nombre atteint 13 transfuges par an. Alors, vous me direz que ce nombre peut paraître relativement limité au regard des grandes masses que constituent à la fois les associés du barreau de Paris et puis l'effectif des élites politiques et administratives françaises. Mais je pense que tout d'abord, ce chiffre est largement sous-évalué parce qu'on n'a pas bénéficié du concours qu'on avait demandé pourtant du barreau de Paris pour nous communiquer ces données. Donc c'est un travail patient et sans doute incomplet de recueil de données, mais aussi parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est l'expansion progressive du domaine de ce phénomène. Alors à la fois numérique, je l'ai dit, mais aussi en termes de domaine du droit. Ça n'est plus seulement, comme c'était au départ, essentiellement des fiscalistes de l'État qui en vendent en quelque sorte leurs compétences dans des cabinets d'avocats fiscales, mais ça touche également aujourd'hui très largement le domaine de la concurrence, le domaine évidemment des partenariats publics-privés, des opérations financières et boursières de l'État dont il faut encadrer juridiquement l'opération, l'arbitrage, etc. Et puis aussi, dernier élément d'évaluation de ce chiffre, c'est la position centrale qu'occupent ces individus, ces 250 personnes. Sur ces 250 personnes, j'ai compté 117 énarques, 89 anciens membres de cabinet ministériel, 47 députés, anciens ou actuels, 35 anciens ministres, 30 directeurs d'administration centrale, 29 anciens directeurs de cabinet ministériel, 8 anciens présidents, secrétaires généraux de partis politiques, 6 anciens secrétaires généraux de la présidence ou adjoints de la présidence de la République. Donc là, évidemment, certains ayant pu, bien sûr, occuper plusieurs de ces fonctions. Donc là, on voit déjà une position particulière dans l'État, mais aussi, je dirais, dernier élément d'évaluation de cette donnée, c'est le fait que ce groupe, si on essaye de le situer dans l'État, en quelque sorte, il se situe dans une position charnière au cœur de ce qu'on pourrait appeler les formes de régulation juridique de l'économie. 26% d'entre eux sont passés par un ministère économique, 15% par les agences de régulation, 20% par des positions économiques ou de cabinet à la Commission européenne, donc ça peut être les commissions de la DG concurrence, etc. Et puis aussi d'importantes positions dans ce qu'on pourrait appeler l'état-major de l'État, des directions de cabinet, secrétariat général de la présidence, mais aussi, j'ajoute ça parce que c'est très important, le Conseil d'État, puisque 28% d'entre eux sont passés par le Conseil d'État. Et puis, position charnière, parce que la position, comme je l'ai dit, qu'ils rejoignent au sein du barreau, c'est pour la grande majorité d'entre eux une position à l'intérieur du barreau d'affaires, c'est-à-dire un pôle très particulier du barreau de Paris. Rares sont ceux qui, comme Jox, par exemple, ont rejoint le barreau pour y pratiquer simplement le travail de commis d'office, par exemple. Donc, c'est un espace social très particulier, et ça n'est pas, encore une fois, un pantouflage à l'ancienne hein, de ces hauts fonctionnaires qui rejoignent les secteurs sur lesquels l'État, dans l'économie, dispose d'une sorte d'emprise ou a des entretient des relations étroites avec ce pôle de l'entreprise. Alors, du coup, de quoi ces circulations sont-elles le nom ? À quoi tient cet intérêt des cabinets d'avocats pour ces profils, et comment expliquer que justement ces univers qui étaient jusque-là assez distants se soient rencontrés. Alors pour ça, dans le rapport et dans le livre que j'essaie de terminer, justement, je tire différents fils pour essayer de donner un peu un sens à cette convertibilité en quelque sorte des profils politiques et administratifs dans le barreau d'affaires. Le premier, c'est, je dirais, l'émergence au sein de l'État de ce qu'on pourrait appeler un droit public des affaires. Enfin, toute une doctrine aujourd'hui met ce mot sur ces transformations-là, c'est-à-dire un droit qui n'est ni seulement public, ni seulement privé, qui emprunte beaucoup au droit de la concurrence, qui emprunte beaucoup au droit européen, qui est justement un droit hybride, qui ne peut pas être classé d'un côté ou de l'autre du public et du privé. Et si je parle de ça à propos de l'État, c'est pour évoquer notamment les nouvelles formes d'intervention à travers les agences de régulation, hein, qui sont précisément des organismes frontières, qui ont construit leur légitimité, l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, qui ont construit leur autorité sur le fait qu'elles s'appuyaient sur les professionnels, justement, des secteurs qu'elles prétendaient réguler, qu'elles intégraient au sein de leur personnel, justement, des opérateurs, comme on dit, de ces secteurs, et que la procédure auprès de ces autorités de régulation était judiciaire et que donc les avocats étaient, en quelque sorte, les premiers porte-parole des entreprises au sein de ces agences. Le deuxième élément de ce droit public des affaires, c'est le recours croissant aussi de l'État à des conseils juridiques privés. C'est très nettement le cas, évidemment, pour les partenariats publics-privés, mais c'est aussi le cas pour aujourd'hui toutes les opérations financières et boursières de l'État à travers l'Agence des participations de l'État, à travers la Caisse des dépôts, etc., pour laquelle l'État, pour montrer qu'il agit comme un opérateur, je dirais, comme les autres, eh bien, s'appuie sur un ensemble de conseils bancaires, de conseils juridiques, qui permettent de crédibiliser, en quelque sorte, sa position d'acteur de marché. C'est le premier fil qui montre, du coup, effectivement, le rôle de l'entrée, en quelque sorte, des avocats dans les franges, on pourrait dire poreuses, de cet État régulateur, comme on dit en sciences politiques. De l'autre côté, il y a, à côté de ce droit public des affaires qui émerge, il y a l'émergence d'un droit, je dirais, des affaires publiques, c'est-à-dire le fait que toutes les grandes opérations, les grandes opérations des entreprises aujourd'hui, les cessions, les fusions et acquisitions, l'entrée sur des nouveaux marchés, elles sont dans une large mesure des batailles juridiques, et ça ne surprendra pas les avocats, mais ce sont des batailles juridiques qui se jouent devant une multiplicité de personnes publiques. C'est la DG Concurrence, c'est l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, le pôle financier du parquet de Paris, la chambre de régulation économique de la Cour d'appel de Paris, voire aujourd'hui le droit constitutionnel, puisqu'il paraît qu'on développe un droit constitutionnel des affaires. Et donc, on voit bien qu'à travers cette multiplicité, justement, de personnes publiques qui régulent, justement, les marchés, eh bien, la capacité, justement, à pouvoir conseiller les entreprises, la capacité à maîtriser ces différents espaces de réglementation publique, la capacité à accompagner l'entreprise depuis, en quelque sorte, le lobbying parlementaire jusqu'au QPC devant le Conseil constitutionnel, à pouvoir les accompagner à Bruxelles comme dans les couloirs du Parlement, eh bien, cette capacité-là est devenue un élément essentiel à la fois du pouvoir de marché que les entreprises sont capables de conquérir et aussi, par voie de conséquence, aussi du travail des avocats qui les accompagnent dans ces démarches. Et de fait, ils se sont dotés, au fur et à mesure, d'une expertise publique qui fait des grands cabinets d'avocats, hein, des grands pôles d'expertise publique aujourd'hui. Alors, justement, c'est à la croisée de ces deux mouvements, de ce droit public des affaires, de cette transformation des formes d'intervention de l'État dans l'économie, qui s'appuie de plus en plus sur des acteurs privés, mais aussi justement sur les cabinets d'avocats, et d'un autre côté du droit des affaires publiques, c'est-à-dire tout le travail d'influence qu'il faut faire pour accompagner les entreprises désormais auprès d'une multiplicité d'acteurs publics, c'est là que justement se construit cet espace brouillé des frontières du public et du privé. Et d'une certaine manière, toutes les politiques publiques qui ont contribué à contractualiser, à sous-traiter, à judiciariser l'action publique dans le domaine économique, ont contribué à élargir progressivement cet espace brouillé qu'on pourrait appeler un champ de l'intermédiation du public et du privé. Et c'est dans ce champ de l'intermédiation du public et du privé que, justement, se situent particulièrement, évoluent particulièrement ces avocats fonctionnaires, comme on peut les appeler. Alors, justement, on pourrait, j'ai pas le temps ici d'évoquer comment ils participent à retravailler les catégories fondamentales du droit public, intérêt général, ce que c'est qu'une personne publique. Je voudrais juste dire, la manière dont ils fonctionnent à l'intérieur de ces cabinets d'avocats d'affaires, c'est justement qu'ils sont naturellement ceux qui occupent les fonctions publiques dans les cabinets privés. Ce sont eux qui naturellement créent les départements compliance and regulation, droit public. Tout semble en quelque sorte marquer la continuité entre les fonctions qu'ils occupaient dans l'État et les fonctions qu'ils occupent à l'intérieur des cabinets. L'ancien secrétaire général de la présidence de Jacques Chirac, Frédéric Salabarou, s'occupe aujourd'hui, c'est Veil et Gottschall, de French Public Law and Government Affairs Practice. L'ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes, Laurent Duruy, intervient chez Gide dans le secteur gouvernement et secteur public, comme conseiller régulier de la Caisse des dépôts, de la SNCF et des voies navigables de France, etc. Ils sont en quelque sorte les leaders naturels de ce droit public des affaires au sein des cabinets. Et ils défendent justement un ensemble d'entreprises publiques, d'établissements publics ou de ministères ou de gouvernements, d'ailleurs, notamment du côté africain. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, et je vais terminer sur ces derniers points, cette expérience au sein de l'État n'est pas du tout quelque chose qui est caché. Évidemment, au contraire, c'est fait partie intégrante de leurs états de service. Le lien est marqué symboliquement sur la carte de visite, fréquemment, je ne suis pas sûr que ce soit toujours autorisé, indiqué avocat à la Cour, ancien élève de l'ENA, partenaire, ancien ministre. Je le sais parce que quand je les rencontre, ils me donnent leur carte de visite. De fait, et les liens sont maintenus avec l'État parce que, du côté de l'État, pour parler vite, on fait appel systématiquement, tendanciellement plutôt, à eux, pour peupler toutes ces commissions qui se constituent autour des ministères économiques ou dans les groupes de travail des agences de régulation. On aura plus tendance à appeler les avocats fonctionnaires que les avocats purs, mais il faut toujours des avocats dans ces groupes de travail. Et en quelque sorte, ils maintiennent de ce point de vue-là un rapport privilégié à l'État. Et ce lien est extrêmement important. Évidemment, ils pensent aussi d'ailleurs leur métier comme une continuation de leur vocation publique par d'autres moyens. Un de mes interlocuteurs, énarque issu d'un grand corps, me disait avoir le sentiment de défendre l'intérêt général dans le privé. Ainsi, de ce cabinet d'avocats qui indique sur son site qu'il ne cessait d'énumérer ses expériences dans la haute administration, au Parlement et dans les collectivités locales, et qui finit par se définir son métier d'avocat comme celui d'auxiliaire du service public, du service public, pardon, en ce qu'il privilégie, je cite toujours, en matière de conseil, un rôle d'aide à la décision publique. Et donc, on voit bien la manière dont, comme disait d'ailleurs ce conseiller d'État, il continue à conseiller l'État, mais de façon plus efficace, disait-il, voire comme lobbyiste et de jouer comme lobbyiste à Bruxelles une fonction de service public. Alors j'achève là par deux remarques conclusives, ce bref relevé topographique, et vous voyez que j'ai tiré quelques fils, mais on pourra en tirer d'autres, sur ce que ces quelques circulations révèlent de transformations plus profondes. Je donnerai simplement deux éléments de conclusion. Le premier, c'est que la mue, je dirais, libérale, régulatrice de l'État depuis une vingtaine d'années, n'a pas, comme elle avait été, comme cela avait été en quelque sorte avancé par les tenants de ces politiques, clarifié les rôles respectifs du marché et de l'État. Ce qui était assez frappant, au contraire, c'est que la zone de contact entre l'État et les personnes publiques et le marché n'a jamais été aussi importante, puisque désormais, les institutions publiques sont la cible privilégiée de la concurrence que se livrent les entreprises, parce que c'est là que se construisent justement le pouvoir de marché des entreprises dans les conditions d'accès et dans les contours d'accès au marché, des contours de ces mêmes marchés. Deuxième remarque, peut-être du coup, peut-être pour lancer un élément de discussion, la catégorie par laquelle on saisit en général cette circulation que j'évoquais au départ, c'est-à-dire la catégorie du conflit d'intérêts, alors est certainement utile d'un point de vue juridique ou judiciaire, mais elle passe à côté du caractère systémique de ce brouillage. En fait, c'est le mode ordinaire de fonctionnement de l'État qui produit ce brouillage, enfin, au moins dans son pan économique, dans ses modes d'intervention et dans ses rapports, justement, avec l'économie. Mais alors, du coup, justement, toujours pour critiquer, je dirais, ce prisme du conflit d'intérêts, cette frontière du public et du privé aussi, ça n'est pas simplement une frontière technique, ça n'est pas simplement une frontière juridique, ce n'est pas une frontière professionnelle, je dirais, mais c'est aussi, d'un point de vue normatif, je crois, là que se définit l'espace légitime du bien commun, ce que circonscrit en quelque sorte le terrain d'expansion de la volonté générale. Et dès lors aussi des formes de procédures de délibération et de prise de décision qui sont forcément distinctes, et du coup aussi un espace d'efficacité des contrôles parlementaires ou administratifs, puisque c'est jusqu'à cette frontière-là que peut jouer le contrôle. Et du coup, ça me permet de conclure sur cette catégorie que j'aime bien qu'utilise Pierre Lascoum, de trou noir du pouvoir, parce que d'une certaine manière, ces zones grises qui se construisent justement dans l'angle mort des contrôles parlementaires et bureaucratiques, dans ces zones grises, justement, on se situe peut-être aux frontières de la démocratie, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont intéressantes à étudier. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci Antoine Vauchez pour ce coup de projecteur sur cette zone grise. Et l'exemple que vous évoquez témoigne d'un désir, en fait, de frontières mouvantes, hein, entre ces deux territoires. Pas vraiment pour une question d'extension. On n'est plus, en effet, dans le cadre de la loi de 90, où est-ce qu'on avait une fusion entre deux professions, mais un désir d'accélérer, comme vous le montrez, la circulation, si ce n'est des savoirs, des expériences ou des intérêts bien compris. Donc on a hâte de lire la conclusion de vos travaux quand ils paraîtront à la mission de recherche pour la justice. Notre troisième intervention maintenant sera sur un autre sujet, un sujet de management, quand la gestion et le management entrent au tribunal, pas seulement forcément dans la figure d'un manager qui pourrait être le président, mais plutôt dans la diffusion plus insidieuse, peut-être inévitable, la question est très polémique, d'un modèle de performance appliqué à la justice. Alors justement, puisque la question est un peu difficile, on va prendre l'exemple belge, c'est beaucoup plus confortable pour nous. Et nous avons demandé à Monsieur Schoenaerts de venir nous faire une présentation. Alors, Frédéric Schoenaerts, vous êtes docteur en sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris, professeur de sociologie des organisations à l'Université de Liège, doyen de la faculté des sciences sociales de la même université. Vos domaines de recherche sont les suivants: l'impact de la nouvelle gestion publique sur les organisations et les professions judiciaires, l'analyse des politiques publiques judiciaires et de la santé, et les transformations de l'action de l'État. Parmi vos derniers travaux, je pourrais citer cet ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes, « Justice ou précipitation, l'accélération du temps dans les tribunaux ». C'est un ouvrage collectif. Et en plus de tout ça, vous avez bravé deux grèves de transport, celle de la SNCB en Belgique, puis de la SNCF en France.
Des frontières.
Et je vous remercie, c'est un autre effet des frontières, d'être présent parmi nous. Et donc je vous laisse les 20 minutes pour votre présentation.
Merci beaucoup. Et comme quoi les syndicats ne sont plus ce qu'ils étaient, puisque quand ils font grève, on roule quand même. Donc voilà, je suis particulièrement heureux d'avoir pu arriver aujourd'hui ici à Paris. Et je tiens bien sûr tout d'abord à particulièrement remercier les organisateurs de cette journée d'études pour cette gentille invitation qui m'honore véritablement. Et je suis donc particulièrement heureux de partager avec vous quelques réflexions à propos de cette fameuse managérialisation de la justice. C'est un thème évidemment dont on entend très souvent parler Et je ne suis pas sûr qu'à la sortie de cet exposé, vous soyez spécialement preneur. Enfin, on pourra en discuter. On verra comment les choses peuvent éventuellement être transposées au cas français. Alors, par managérialisation, on entend en fait, de manière générique, hein, la volonté ou le souhait d'introduire des préoccupations de type organisationnel, gestionnaire, budgétaire, au sein des tribunaux, lorsque l'on parle du siège, avec la perspective d'améliorer évidemment les performances du fonctionnement organisationnel, que ce soit performance en termes de qualité du service rendu ou performance en termes d'efficience, c'est-à-dire d'utilisation des moyens publics mis à la disposition de la justice. On est ici donc dans une perspective dans laquelle on va tenter de faire cohabiter rationalité de type juridique classique présente au sein des juridictions, au sein des tribunaux, et rationalité managériale qui relèverait plutôt des grands classiques utilisés au sein du secteur privé, puisque le new public management consiste, basiquement à importer dans le secteur public des outils de gestion du secteur privé. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de discuter de cette affaire-là en Belgique? C'est parce que simplement, à partir de 2008, il y a un véritable effet d'emballement qui est observable au sein du paysage judiciaire et politique belge par rapport à cette question-là. Le phénomène s'est accéléré et toutes les dimensions de la vie des juridictions sont touchées. On va ainsi reconsidérer la carte judiciaire belge, réorganiser les structures, en créer de nouvelles, mettre en place une nouvelle GRH au sein de l'ordre judiciaire et reconsidérer évidemment aussi toutes les questions budgétaires. Et donc, on peut essayer de se poser, après quelques années d'observation de cet emballement finalement de la managérialisation de la justice belge, quels sont les effets induits que l'on peut observer. Alors, je vais vous proposer de faire un très bref retour sur l'histoire donc, de l'introduction du nouveau management public dans la justice belge. Dans un deuxième temps, j'essaierai de regarder quels sont les impacts présents ou à venir. On fera un peu de prospective suite à la grande réforme managériale de 2013-2014. Il s'agit donc d'une première analyse exploratoire qui repose donc sur la réalisation d'une trentaine d'entretiens semi-directifs avec des cadres de toute une série de tribunaux belges, la réalisation de deux focus groupes et bien sûr une analyse documentaire. Alors, avant 1996, la question managériale, bien honnêtement, ne se pose pas dans la justice belge. Elle ne se pose pas du tout. La justice belge vit éminemment protégée de toute velléité de la part du politique qui consisterait à essayer de la stimuler à entrer dans des réflexions de type managérial. La justice, chez nous, est un pouvoir, au sens premier du terme, donc c'est le troisième pouvoir, à côté de l'exécutif et du législatif, et donc a un statut d'indépendance qui est reconnu par la Constitution et auquel la justice elle-même tient comme à la prunelle de ses yeux, bien sûr, et qui plus est, de manière un peu plus factuelle peut-être, la Belgique est un pays consociatif, c'est-à-dire un pays qui repose sur l'existence de piliers philosophiques. Il y a un pilier laïque, un pilier confessionnel, et les élites politiques issues de ces piliers délèguent à des élites dans les différents secteurs la fonction de gérer ce secteur de manière autonome. Et donc il y a une distance au pouvoir central politique, qui s'installe et qui crée en quelque sorte un terrain favorable ou un terreau favorable à ce que la justice, au cours du temps, se développe de manière très autonome et fonctionne en vase clos. Et donc, du coup, les intrusions qui auraient consisté à tenter d'introduire au sein de la justice des éléments qu'elle ne souhaitait pas ont été purement et simplement rejetées pendant des années. 1996, on connaît un premier basculement puisque la justice belge va vivre une crise de légitimité profonde. Inutile de rappeler l'affaire Dutroux de sinistre mémoire qui a secoué le pays. Crise de légitimité qui va émerger du fait que la crise Dutroux est le catalyseur au développement de toute une série de critiques sociétales, politiques, médiatiques à l'égard des dysfonctionnements de la justice. Ils étaient déjà là, mais on parvenait à les cacher. Avec l'affaire du trou, ils éclatent au grand jour et on va observer l'émergence d'un discours politique très très intrusif cette fois à l'égard de la nécessité d'observer une justice qui se réforme, qui se réorganise et qui va renforcer son profil d'administration ou de service public. Alors, pour ce faire, le politique va développer quelques dispositifs, mais il tâtonne véritablement à l'égard de la justice. Dispositifs de type mise en place de mandats pour les chefs de juridiction, développement de la statistique judiciaire, obligation pour chaque juridiction et chaque service de ministère public de produire annuellement un rapport d'activité. Rapport d'activité qui doit être voté par l'Assemblée générale des magistrats qui composent chaque entité. Donc on voit qu'il y a une volonté d'impliquer tout un chacun dans les questions gestionnaires. On observe néanmoins que ces différents dispositifs sont peu guidés dans leur mise en place, qu'ils ont peu de substance, peu de procédures concrètes sont mises en place pour infléchir véritablement l'action des juridictions. En même temps, peu de moyens sont investis. La crise budgétaire était déjà là. On était pourtant 12 ans avant 2008. Mais quoi qu'il en soit, les finances de l'État n'étaient pas glorieuses à l'époque. Et donc, peu de moyens additionnels ont été investis. Ce qui donne l'impression d'avoir un management de type 1.0 fait de bricolages locaux dans lequel ou au travers desquels les magistrats, les chefs de juridiction tentent, sur leur marge locale disponible, de mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, mais qui restent, puisqu'ils sont pris sur les marges locales, eh bien, qui restent marginaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas observer une franche révolution, mais simplement observer plutôt une évolution. Cette évolution aura quand même un effet induit premier qui est la pénétration dans toutes les strates des organisations de la rhétorique managériale. Impossible depuis 1996 et très vite dans les années qui vont suivre cette époque-là, impossible d'entendre un magistrat qui vous aurait dit « Moi, je rejette l'idée que nous nous réformions parce que finalement on fonctionnait bien ou parce que pour moi, améliorer la qualité n'a pas de sens. » Impossible, évidemment. Ce discours a percolé dans les différentes strates organisationnelles. On passera du côté sombre de la force à partir de 2008. Parce que autant le management 1.0 était fait de bricolages locaux qui, en quelque sorte, ne brouillaient pas les frontières entre les différents pouvoirs présents en Belgique, notamment le judiciaire et l'exécutif et le législatif, autant à partir de 2008, la donne va légèrement changer. Puisque sous l'égide du ministre De Clercq, à l'époque, le projet dit Atomium, alors bon, évidemment vous le savez tous, mais l'Atomium est à Bruxelles, ce que la Tour Eiffel est à Paris, hein, c'est ce monument composé de 9 grosses boules que l'on peut visiter. Le projet Atomium, qui portait ce nom puisqu'il était composé des 9 partis politiques démocratiques belges, 5 francophones, 4 flamands, est-ce que c'est démocratique 5 contre 4 ? Je pose déjà la question. Enfin bref. Ce projet Atomium avait pour ambition de tracer les contours d'un nouveau paysage judiciaire. La donnée de départ qui est émise par le ministre consiste à dire « Nous avons une part de budget public faible attribuée à l'ordre judiciaire. Nous allons la maintenir. Elle est faible, mais nous allons la maintenir. Mais avec cette enveloppe budgétaire, nous souhaitons améliorer les performances et tenter de faire mieux avec ce qui est disponible, et donc activons la rhétorique managériale et ses dispositifs pour tenter de réorganiser les choses. Alors, vous voyez que la première date, c'est 2008-2009, et puis les lois vont passer en 2013-2014. Ça fait 5-6 ans. Mais c'est simplement parce que déjà, on est resté 560 jours sans gouvernement à cette époque-là, et que donc le projet a été mis au frigo le temps des négociations, et puis qu'il a fallu le temps que la ministre suivante, évidemment, se réapproprie le projet, relance les négociations avec les partis politiques pour que les lois puissent être édictées en 2013 et 2014. La fameuse grande réforme du paysage judiciaire belge va comporter ou comporte trois pans essentiels. Un premier pan, La France a connu ça 25 ans avant nous. C'est une fusion des arrondissements judiciaires, une réforme de la carte judiciaire dans la perspective, alors là, déclarée, de réaliser des économies d'échelle, notamment par un principe de spécialisation des magistrats. Hein, avoir un magistrat spécialiste en droit fiscal sur 3 petits arrondissements judiciaires est plus rentable que d'avoir 3 fois un magistrat dans 3 arrondissements différents. Donc, ce but est bien de faire du case management pour dégager des économies d'échelle, mais aussi à terme, évidemment, supprimer des lieux de justice pour supprimer les coûts qui y sont liés. Deuxième pan de la réforme, c'est l'introduction d'une logique de flexibilité beaucoup plus grande pour le personnel. Le personnel, les magistrats sont maintenant, que ce soit pour le siège ou le ministère public, les magistrats sont maintenant nommés au niveau du ressort de la cour d'appel. Même si après on les bascule au niveau d'un tribunal donné, ou d'un tribunal du travail, ou d'un tribunal du commerce, néanmoins, sur leur carrière, ils peuvent être rebasculés dans les autres tribunaux du même ressort de cour d'appel, ce qui peut faire quand même, alors on n'est évidemment pas dans la même géographie qu'ici, mais qui peut quand même faire des distances conséquentes, surtout si on a en tête d'aller s'installer avec sa famille à côté de l'endroit où on travaille, et que plus tard on peut évidemment vous déloger de là-bas. On n'a pas le même rapport à la mobilité qu'en France, mais on est beaucoup plus sédentaire, hein, donc c'est quelque chose à avoir à l'esprit et qui a remué pas mal, les réflexions des magistrats. J'en arrive au morceau de choix, au clou du spectacle, à la cerise sur le gâteau, c'est le troisième pan de notre réforme. C'est la mise en place de contrats de gestion entre le monde politique et les tribunaux dans la perspective de mener à bien l'allocation des ressources, ressources qui seront donc allouées aux entités judiciaires en échange de la prestation d'une série de missions pour rencontrer des objectifs qui sont prédéfinis. Pour ce faire, le monde politique a mis en place 2 nouvelles structures tout à fait conséquentes. La première, c'est le collège des cours et tribunaux. La deuxième structure, c'est le collège du ministère public. Ces 2 collèges sont composés, au niveau de leurs organes de gestion, sont composés de magistrats, issus évidemment du pilier du siège et du ministère public et des différents types de juridictions ou d'entités qui les composent. Ce sont donc des représentants des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux du commerce qui représentent leur pairs au sein de ce collège du siège, pour en prendre un des 2, les cours et tribunaux, et qui donc se voient investis de la mission de gérer les moyens et les enveloppes budgétaires que le politique va leur allouer en les redistribuant aux différentes entités qui composent leur domaine de compétences. Et donc, pour ce faire, les 2 collèges vont devoir, dans un premier temps, négocier avec le monde politique une enveloppe budgétaire qui devra couvrir les besoins pour remplir les missions. On va passer un contrat au sommet entre le politique et chaque collège qui va obliger les 2 parties, la première à verser une enveloppe budgétaire, la seconde à rencontrer des objectifs prédéfinis. Et dans un deuxième temps, chacun des 2 collèges va négocier à son tour avec toutes les entités qui échoient à sa responsabilité un second contrat de gestion qui lui-même va prévoir les moyens que le collège va allouer à une entité donnée en échange de la réalisation d'une série de missions qu'elle doit réaliser. Les missions, c'est simple, c'est dire le droit dans les litiges qui sont portés à la connaissance des juridictions. On a donc un double mécanisme de contractualisation qui va être mis en place, et ce double mécanisme de contractualisation pourrait être très alléchant si nous étions dans une économie d'abondance. Malheureusement, nous sommes dans une économie de la pénurie. Et d'entrée de jeu, la magistrature s'est entendue dire que les enveloppes qui vont être négociées seraient négociées à hauteur de 90% du budget actuel de l'État alloué à la justice. Donc on commence déjà avec un déficit de 10% que l'on va devoir en interne gérer par la suite. Donc on est dans une excusez l'expression anglaise, mais c'est peut-être la plus réaliste, dans une phase de cost-cutting, on essaye de raboter dans tous les postes budgétaires de la justice, et donc l'orientation de sens qui est donnée à la managérialisation de la justice, elle est très typée. C'est une orientation de sens qui va vers la rationalisation, vers la performance budgétaire et financière, au travers de mécanismes organisationnels qui doivent la servir. Autant vous dire que le discours autour de la qualité de la justice reste très prégnant dans le politique, mais les os à ronger pour pouvoir le faire sont réduits à la part congrue. Oui, parfait. Alors, petit bilan intermédiaire analytique de cette phase de managérialisation que j'appelle de type 2.0. Premier élément, la fusion entre les tribunaux et les juridictions est très peu guidée, ce qui laisse apparaître un très fort émiettement de l'action sur le territoire belge. Deuxièmement, la mobilité des magistrats semble, dans certains cas, il ne faut pas généraliser abusivement, mais réintroduire de l'arbitraire. On se sert de la mobilité forcée comme outil de sanction-récompense. Il y a des fortes incertitudes qui apparaissent sur la gestion autonome, simplement parce que les magistrats belges ne sont pas formés. Ils n'ont aucune connaissance de la gestion des finances publiques. Et ils vont devoir, bien sûr, procéder à une reddition de comptes. Donc la responsabilité et le statut sont en cause. Et le tout, bien évidemment, se fait en complément, et ça renvoie à l'ouvrage qui a été cité tout à l'heure, se fait en complément, bien sûr, de dispositions légales nouvelles pour la diminution des délais qui rajoutent une couche de pression supplémentaire sur les juridictions en termes de réorganisation de processus, mais de processus juridique cette fois-ci. Alors, se pose aussi fondamentalement la question de l'autonomie de la justice. Il y a, me semble-t-il, un fort brouillage qui apparaît, puisque je trouve que derrière le terme « autonomie » qui devrait être garant d'indépendance, il y a des mécanismes insidieux et cachés qui dénotent le fait d'une reprise de mainmise du politique sur la justice. Le seul exemple que je vous donne, c'est que dans les conseils de gestion des deux collèges, il y a des commissaires du gouvernement qui sont là pour vérifier au jour le jour de la bonne application, de la bonne exécution du contrat de gestion qui a été passé entre la justice et le politique. Un petit peu de prospective maintenant, quoique il y a déjà des faisceaux d'éléments qui nous permettent de mettre en avant certaines difficultés qui apparaissent. Ces difficultés sont liées à des confusions qui me semblent émerger, de la mise en compatibilité un petit peu selon la méthode de l'apprenti sorcier que serait le politique et la justice aussi, puisqu'elle n'a d'autre choix que de subir le mouvement, mais de confusions qui apparaissent dans cette tentative de mise en compatibilité de la rhétorique managériale et de la rhétorique juridique classique. Première confusion, n'y a-t-il pas une confusion justement qui apparaîtrait entre vitesse et précipitation? La justice ne devient-elle pas parfois expéditive au nom du fait que l'on souhaite être plus performant? Deuxième confusion, n'apparaît-il pas un paradoxe entre volonté d'autonomie et mise en compétition des juridictions? Si on a un gâteau à se partager, il y aura 49 entités qui vont devoir négocier leur propre enveloppe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'on bascule dans des jeux de pouvoir, dans des rapports de force entre juridictions, dans la course aux moyens alloués par les collèges? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion qui apparaît entre le mandat donné à un magistrat chef de juridiction pour mener à bien une gouvernance organisationnelle responsable ou le fait de lui donner carte blanche pour atteindre coûte que coûte ses objectifs, avec le spectre du retour d'un arbitraire dans la gestion locale? N'y a-t-il pas une confusion entre objectif de saine gestion, qui me paraît être un défi démocratique pour la justice comme pour la santé, comme pour tout autre secteur public, mais donc confusion entre des objectifs de saine gestion d'une part et un contrôle abusif par le politique d'autre part? Est-ce qu'on ne devrait pas être capable simplement de déléguer la responsabilité avec un contrôle a posteriori plutôt que d'avoir des commissaires du gouvernement présents en permanence, avec le spectre donc d'une rupture de la séparation des pouvoirs qui pourrait apparaître? N'y a-t-il pas une confusion qui pourrait apparaître également entre la figure du magistrat responsable, avec sa conscience professionnelle, et évidemment des préoccupations d'efficacité bien légitimes, d'une part, mais qui pourrait toutefois trouver une forme d'exacerbation avec la figure du magistrat-manager que le politique tente de vendre à l'heure actuelle. Enfin, et pour terminer, n'observe-t-on pas l'apparition d'une confusion entre, d'une part, la maîtrise des coûts au niveau des budgets publics et un véritable étranglement budgétaire? Je rappelle, 90% du budget sera mis à disposition. Il me semble que ça rend compliqué la gestion, que ça peut mener vers des effets induits en termes de qualité qui sont néfastes, et que le spectre de la privatisation de la justice me paraît de plus en plus présent, puisque des procédures de type online dispute resolution apparaissent de plus en plus présents, notamment en droit commercial. Je vous remercie pour votre bonne attention.
Merci Frédéric Skounars pour ces dernières nouvelles de Belgique qui sont très intéressantes pour nous parce qu'elles résonnent vraiment à des débats très actuels en France. La France n'échappe pas à une sorte de lame de fond qui touche beaucoup de justice européenne sur les sujets dont vous avez parlé. Et puis des débats très actuels dont une partie était encore sur la place publique hier et avant-hier au Parlement à l'initiative de la Cour de cassation sur l'avenir de l'autorité judiciaire française. Donc beaucoup de choses qui nous inspirent. Et je remarque que vous avez choisi quelque chose encore différent de notre situation française, mais aussi des Néerlandais de l'autre côté de votre pays, qui sont allés très tôt aussi sur un modèle de management et dans l'importation du modèle de management à la justice, mais que vous avez fait des choix singuliers qui sont autant d'expériences pour nous à regarder de beaucoup plus près et à nourrir justement de conséquences concrètes avant de trancher définitivement, peut-être dans la loi ou dans les pratiques, ce débat sur le management et l'évolution de la justice française. Ce que je remarque, c'est que il y a effectivement dans votre double modèle 1.0, 2.0, il y a d'abord l'entrée du management dans le tribunal et puis ensuite, je crois, l'entrée du management de la gestion en tant qu'outil, en tant que thème, dans les rapports et comme langage entre le politique et le judiciaire. C'est-à-dire on peut d'ailleurs être de bons gestionnaires chacun dans son coin, mais ne rendre compte de la communication entre le judiciaire comme politique et l'exécutif, par exemple, comme politique, qu'à travers une grammaire de la gestion et du management, c'est peut-être ça, effectivement, qui perd tout sens pour l'institution judiciaire. Après ce troisième exposé, il est temps de donner la parole à notre discutant. Donc c'est un peu de tous ces thèmes sur lesquels nous allons revenir. Des réactions aux trois exposés nourris de l'expérience d'Emmanuel Charrier, qui est expert de justice, spécialisé en gestion et en finance, parce que vous êtes commissaire aux comptes. En France et en Belgique, vous participez aux instances de l'expertise en tant qu'administrateur de la Compagnie des experts comptables de justice, de la Fédération de toutes les compagnies françaises et en tant que membre de la commission de discipline de l'une des compagnies belges. Et vous êtes enfin professeur associé en sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine. Voilà, vous avez également participé au titre des ouvrages des différents participants de cette table ronde à l'étude sur l'expertise judiciaire qui a été dirigée par Jérôme Pellis pour, là encore, la mission de recherche droit et justice et qui a été publiée chez Armand Collin en 2012. Je vous laisse la parole, Emmanuel Charrier, pour nous faire part de vos remarques sur ce thème et puis sur ce que vous avez entendu lors de la table ronde.
Merci à vous de ce florilège de statut. Je ne retiendrai qu'un seul ce soir, celui d'expert de justice. En vérité, pour jouer des métaphores qu'inspire le thème des frontières qui nous occupe cet après-midi et ce matin, on peut dire que l'expert judiciaire est un passeur. Évidemment, un passeur autorisé, un passeur accrédité, puisque l'expert a pour mission d'éclairer le juge sur un élément de fait qui requiert les lumières d'un technicien. C'est la formule du Code de procédure civile. Autrement dit, il s'agit pour le technicien de permettre à des faits bruts, des faits techniques, arides, d'atteindre le statut de fait catégorisé, pesé par l'expert, épuré jusqu'à en devenir qualifiable par le juge dans l'ordre du droit. Olivier Leclerc, qui n'est pas présent aujourd'hui, doit entendre l'évocation. C'est bien là un passage de frontière par les faits qui atteignent ainsi l'agora judiciaire, une fois marqué par l'avis de l'expert. Raison pour laquelle j'étais très heureux de l'invitation de Laetitia Brunin et de Liora Israël aujourd'hui. Parlant, vous l'aurez compris depuis ma position de praticien expert, je n'ai évidemment aucune prétention à discuter dans leur détail les trois riches présentations entendues cet après-midi. Et je vous propose de saisir certains éléments de ces présentations pour rebondir depuis la position des experts de justice. On dit souvent, on reproche souvent aux experts à la française d'être autocentrés, égocentriques. Je tenais à ne pas vous décevoir. Préalablement, il faut cependant rappeler que l'expertise de justice n'est pas proprement parler une profession judiciaire. Le décret de 2004, suivant en cela la loi de 1971, prévoit l'établissement de listes d'experts près des cours d'appel, et ces listes recensent des professionnels, certes, de diverses spécialités, aujourd'hui quelques 12 000 professionnels de la médecine, du bâtiment, de l'industrie, de la psychologie, de l'informatique, de la finance, et j'en oublie des centaines. Mais le statut d'expert ne donne pas accès en soi à une profession, seulement à une fonction, exercée quand un tribunal désigne le dit expert. Il en est de même en Belgique, il en va différemment, on le sait tous, je crois, au Royaume-Uni ou aux USA, qui ne connaissent guère l'expert du juge, et considèrent que la preuve étant à la charge des parties, il en est de même de l'intervention d'experts, dits « expert witnesses » ou « forensic expert », comme le dit par ailleurs une de mes certifications américaines. Ce statut de l'expert le place, de facto, à l'extérieur des tribunaux, des prisons, du ministère de la Justice, et contrairement, par exemple, aux avocats, les experts croisent peu les juges, et croisent peu également les autres auxiliaires de justice. Sauf quand on parle des serial experts, selon la formule consacrée par Caroline Protet, mais le nombre des expertises diminue, et avec eux, le nombre des serial experts. Il était question à l'instant, de la part de M. Schoenaert, de l'évolution managériale des juridictions en Belgique. Et dans cette logique, ce voisin royaume a prévu la mise en place, par ailleurs, de listes d'experts judiciaires, ce qui n'existait pas jusqu'alors. En France, l'une des évolutions managériales qui concerne aujourd'hui le plus immédiatement les experts de justice, c'est celle de l'informatisation des relations avec les tribunaux. L'application Corus, par exemple, qui a déjà 3 ans d'âge et qui traite des frais de justice, provoque pratiquement quotidiennement de la part des experts des réclamations, voire des récriminations. En parallèle, tout au contraire, la dématérialisation des communications est pour sa part bien mieux reçue, sans doute parce que, tout au contraire également, les experts ont collectivement poussé le projet, ont collectivement élaboré les propositions auxquelles ensuite se sont associés le ministère et les cours. Cela permet certainement ensemble un modelage concerté de l'objet frontière qui est le support de communication entre les experts, les tribunaux et les ministères, et tout particulièrement les ordonnances, courriers, rapports et travaux d'expertise, c'est-à-dire le cœur en tant que tel de ce matériau expertal. Donc ce travail de modelage concerté s'observe même aujourd'hui avec les avocats, puisque depuis quelques jours, le RPVA, qui est le réseau électronique des avocats, va être connecté avec les réseaux experts. Tout ça s'est passé dans de bien meilleures conditions, en l'occurrence, que Corus. En raison de la distance entre experts et cours de justice, l'évolution managériale quotidienne étudiée tout à l'heure, l'évolution des processus, les logiques d'objectifs et de tableaux de bord qui ne manquent pas d'y s'y associer, se fait évidemment sans les experts. Nous sommes en dehors des tribunaux, nous ne sommes pas concernés directement au quotidien par ce que vivent joyeusement les magistrats. Les pratiques professionnelles des juges évoluent ainsi et, en conséquence, leurs attentes à l'égard des experts. Une expertise doit toujours, on s'en doute, être efficace, rapidement délivrée, techniquement lisible, certainement également judicieusement discutée avec les belligérants, de sorte que le juge n'ait plus à y revenir. Et il est probable que les contraintes d'objectifs en la matière imposent encore plus au juge d'espérer ne pas avoir à revenir sur ce qu'il a confié à un expert. Mais comment cette expertise doit-elle être menée dans les faits? Qui est le patron de la méthode expertale? Est-ce l'expert ou est-ce le juge? Face à une difficulté de mission, face à une difficulté de communication, est-ce que c'est à l'expert de faire montre de son autorité ou est-ce que c'est au juge, à ce moment-là, d'exprimer cette autorité? Nous sommes probablement depuis quelques années dans un mouvement en la matière. L'idée d'un expert du juge qui avançait avec efficacité et autorité, avec la confiance de son mandant, passe au bénéfice d'un expert dans la procédure, qui doit subir la procéduralisation des débats et rendre compte au juge et aux parties de la conduite quotidienne de sa mission. La logique managériale propre à ma spécialité, par ailleurs, fait des ravages dans toutes les activités. On peut se demander si, pour évoquer les travaux de tout à l'heure, on peut se demander si cette mesure d'instruction, puisque c'est le terme consacré pour les travaux de l'expertise judiciaire, a encore l'efficacité et la pertinence que Goethe donnait à la mesure de police en la matière. Dès lors que l'expert passe d'un maître du sens technique, d'un maître du sens professionnel, à un maître des formes, la forme de la procédure, la forme d'une technique dont il doit justifier, ce qui par ailleurs est l'évolution américaine avec ce qu'on appelle la jurisprudence d'Obert, qui impose à l'expert d'être capable de rendre compte de comment il aurait dû penser sa méthode, comment il aurait dû penser son expertise au fur et à mesure de son déroulé. Cette évolution, il faut bien en avoir conscience, ne concerne pas que les rapports de l'expert et du juge, mais également les rapports de l'expert avec les parties et avec les avocats. L'expertise aujourd'hui devient un terrain de jeu également des avocats qui saisissent ce qui jusque-là était une mesure assez discrétionnaire, avec ce risque-là, dans les pratiques de l'expert, un droit procédural souple, un petit peu dans ce qu'évoquait Antoine Janou il y a quelques années sur le droit comme modèle pour les pratiques, vers un nouveau droit qui est considéré comme un droit procédural en tant que tel, et donc plus un espace de pratique, mais massivement un espace de droit. Ce mouvement de sens et de valeur exprime un déplacement des frontières pour l'expert, déplacement que l'on observe dans toutes les spécialités de l'expertise. Les expertises civiles et commerciales sont celles pour lesquelles le contact distant au juge induit sans doute la mutation la plus profonde, mais la plus sourde. L'expertise pénale est en revanche celle qu'il a vue la plus crûment aujourd'hui. En effet, l'expert commis dans une procédure pénale est rémunéré par l'État, alors qu'en matière civile et commerciale, la rémunération de l'expert est fixée par les tribunaux, mais est payée, in fine et rapidement, par les parties. Aujourd'hui, nombre d'experts en matière pénale attendent, et attendent longuement, le paiement de missions achevées il y a un an, deux ans, quelquefois trois ans. Il s'agit par ailleurs de professionnels qui sont ceux qui sont les plus sollicités par les tribunaux en matière pénale. Parlons d'experts en matière psychologique, psychiatrique ou d'experts traducteurs. Jusqu'à là, c'était d'ailleurs des professionnels qui étaient convaincus d'être reconnus dans leur service aux fonctions dans leur service de la fonction de justice. Et c'est de ce fait-là un comportement qu'on connaît par ailleurs, mais donc un comportement de discrétion, c'est-à-dire que ce sont des experts qui sont restés longtemps silencieux sur cette tension. Depuis quelques mois, pourtant, on note un changement important, puisque dans plusieurs cours d'appel de France, les experts psychiatres refusent désormais les missions qui leur sont proposées. Le terme est choisi par les juridictions qui les saisissent, au motif de la situation personnelle dans laquelle ils se retrouvent contraints. Comprenez que ce sont des experts dont, plus proches d'un modèle de profession que de fonction, consacrent à peu près la moitié de leur activité à l'expertise de justice et se retrouvent avec trois ans de rémunération non perçue. On voit la tension. C'est un sujet qui, par ailleurs, quoique polémique, est un sujet bien connu, puisque c'est l'un des premiers sujets dont le garde des Sceaux s'est saisi il y a quelques semaines. Mais si on le place dans le cadre de nos discussions d'aujourd'hui, il ne me paraît pas impertinent de mettre cette observation avec le glissement de sens et de valeur suscité, c'est-à-dire sur la distance, la nouvelle distance que l'expert ressent dans ses relations au juge, avec un juge plus attentif à ses propres affaires et qui attend de l'expert de résoudre lui-même le cœur de ses propres affaires dans une logique de droit et non plus dans une logique sans doute d'autonomie en la matière. Poursuivons avec une dernière question. Une autre frontière mise directement en lumière par les travaux de M. Vaucher, qui sont les experts. Les effectifs des experts inscrits sur les listes diminuent par l'effet de la révision quinquennale depuis la loi de 2004. Selon les spécialités, les candidats voient dans l'expertise un complément d'activité, une activité significative, ou la mise en valeur de leurs compétences et notoriété. Tous affichent leur souhait de servir un intérêt général et supérieur. Comme on a entendu le même propos de la part des énarques devenant avocats d'affaires, vous n'êtes évidemment pas autorisé à sourire. Peu le disent cependant, mais cela se perçoit de plus en plus. Les opérations d'expertise deviennent des situations collectives. Je précise, le modèle français et belge, et espagnol et allemand et japonais, je ne parle que de ceux que je connais, font intervenir des experts qui mènent leurs opérations, contradictoirement certes, hors mission pénale, mais par eux-mêmes, avec leur autorité, en relation directe avec les avocats et les parties. Un changement qu'on observe aujourd'hui, plus exactement une accentuation, c'est l'intervention aux côtés des parties d'experts privés. Jusque-là, on connaissait des experts d'assurance, médecins, ingénieurs, comptables. Aujourd'hui, ce qui s'accentue, c'est l'intervention au titre de ces experts dits de partie, l'apparition des experts judiciaires, de manière beaucoup plus systématique, qui interviennent donc à titre privé. On pressent immédiatement les interférences qui pourrait se produire. Après tout, dans ma spécialité gestion finance, il y a en tout et pour tout en France un peu moins de 1000 experts. On se connaît facilement. Et les compagnies ont par ailleurs de ce fait édicté de bonnes pratiques déontologiques pour favoriser la confraternité. Mais on peut aussi analyser ce phénomène, me semble-t-il, dans la logique qui pourrait concerner les barreaux politico-administratifs. La technicité des sujets en expertise requiert incontestablement qu'on en débatte. Après tout, l'expertise est considérée aujourd'hui comme un petit procès. Le juge attend que ce soit fini quand ça lui revient. Et une fois passé, presque tout est dit de la technique. Alors l'intervention privée d'experts de justice est certainement un facilitateur d'un déroulement pleinement contradictoire et moins autoritaire des opérations d'expertise. La Cour de cassation, en chambre mixte en septembre 2012, a d'ailleurs entrouvert une voie en ce sens, mais du bout des lèvres, on est très loin du modèle anglo-saxon. Se posait au moins la question de l'impact sur la légitimité des acteurs d'un excès de familiarité, non point alors avec la matière technique discutée, mais évidemment entre les techniciens. Problématique plus large d'ailleurs qui concerne également le métier de l'audit, duquel je viens en la matière et sur lequel un certain nombre de travaux à Dauphine mériteraient d'être discutés. Il faut quand même évoquer un dernier point en ce qui concerne les espaces, territoires et frontières de l'expertise. Aujourd'hui, l'expertise se déplace, et plus précisément, une part significative des litiges entre entreprises aujourd'hui ne vient pas devant les juridictions et ne vient donc pas devant les experts de justice. L'arbitrage est très fréquent en la matière, je ne parle pas des autres mardes ou marques évoquées tout à l'heure. Et la particularité, c'est que les arbitrages aujourd'hui, même les arbitrages à la française, sont des arbitrages marqués par la common law, par des procédures de droit qui ne relèvent pas de notre environnement naturel, et souvent dans des langues qui sont la langue internationale, c'est-à-dire l'anglais. Ça signifie que dans cet espace-là, les experts ne sont pas les experts du juge, ne sont pas les experts de justice, selon le terme consacré aujourd'hui en termes de statut. Au contraire, ce sont des experts matinés de common law. Cela signifie qu'en termes de familiarité, ce n'est sans doute plus le lien excessif entre experts ou entre experts et juges qui peut poser question, mais le lien entre experts et nouveaux prescripteurs, avocats d'affaires, pour lequel ce qui prime est peut-être plus le travail d'influence que la stricte question de la compétence. En guise de conclusion, sur ces observations qui, je l'espère, contribueront au débat, on perçoit qu'en dépit des points de tension évoqués, l'objectif supérieur d'un procès équitable est partagé et la transparence sur les processus et techniques va bien en ce sens. Je ne suis pas certain, en revanche, pour prendre un élément de comparaison, qu'un dispositif tel que la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est en train de pointer son nez dans un projet législatif, ou l'actuelle comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, même si ces deux mécanismes répondent à de louables soucis d'efficacité, je ne suis pas certain qu'ils aillent nécessairement dans le même sens, dans la mesure où, incontestablement, ils peuvent conduire à constituer des territoires privés, hors de toute transparence publique, hors de toute idée d'un droit partagé et au service d'un certain nombre de spécialistes. Je vous remercie.
Merci à Madame Charrier. Je crois que ces trois interventions plus une illustrent en effet bien le caractère mouvant des frontières des professions. Qui s'explique aussi par des représentations, je crois que c'est un point commun de vos différentes interventions, des représentations que vont se faire ces professions, et forcément différentes de la justice, à la fois ce qu'on attend d'elles en tant que profession et de leurs propres attentes en tant que participation à un objet justice qui peut être défini et défini finalement très différemment. Donc il y a aussi comment on imagine son positionnement par rapport à une frontière qui évidemment explique tout le dynamisme et le titre tout à fait justifié de la table ronde de cet après-midi.
Merci pour ces interventions. Rapidement, pour vous dire que entendre parler cet après-midi des frontières mouvantes des professions judiciaires m'inspire évidemment des réflexions sur les frontières du métier de magistrat et de juge. Alors à cet égard, je voulais vous dire rapidement à la fois que le magistrat regardait ce qui se passait autour de lui et qu'effectivement le juge a bien vu que le policier était un homme et que le juge était une femme, ça il l'a bien compris. Il a regardé aussi autour de lui ce qui se passait dans les frontières entre les avocats et les politiques. Et ça, il l'a bien compris aussi en termes de rapports de force qui sont en train de s'instaurer. Ça, on le sent très clairement. Et puis, à part regarder les autres, on réfléchit aussi à nous-mêmes et à ce que nous allons devenir. Les choses bougent aussi dans la magistrature. Il y a aussi des territoires d'ailleurs qui viennent dans le cercle judiciaire. Des magistrats sortent, vont en détachement, exercent leur activité ailleurs, mais aussi beaucoup d'intégrés arrivent dans la magistrature et favorisent ces mélanges de cultures. Et je pense que c'est une bonne chose et cela changera forcément la magistrature. Et puis pour faire écho à l'intervention Le magistrat doit aussi en partie devenir un manager, donc il doit s'interroger sur le périmètre dans lequel il va définir son espace de management. Attention, à cette occasion, on peut dire à quel point il est important que le manager reste un juge. Vous n'avez pas évoqué cette hypothèse, mais il y a aussi cette menace qui pèse sur le juge. Être un bon manager, nous allons t'en proposer un. Et ça, ça va être aussi une frontière qu'il va falloir définir très clairement et un enjeu pour la magistrature d'être capable de garder cette maîtrise en fait, économique, budgétaire, mais aussi de sens et d'affirmation de la qualité de son travail et du sens qu'il veut lui donner. Donc rapidement, c'était simplement pour vous dire que le magistrat va se construire ses frontières dans les années à venir, lui-même. Je pense que par ses pratiques professionnelles, il a presque le devoir, dans les années qui vont s'écouler, le devoir de définir lui-même son territoire.
Merci pour cette intervention. Monsieur, vous vouliez prendre la parole ?
Merci. Serge Slama, c'est plus un complément sur le propos d'Antoine qu'une critique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre au même niveau tous les passages entre fonction publique, vie politique et profession d'avocat. Alors d'abord, dans beaucoup d'exemples que tu as donnés, c'est des membres du Conseil d'État. Et comme les professeurs d'université, les membres du Conseil d'État, de plein droit, peuvent devenir avocats. Donc ce n'est pas la même exception. Donc je ne sais pas, Aguila, Salabarou, etc. En fait, comme conseiller d'État, ils peuvent passer comme avocats sans aucun problème. Ce qui était vraiment critiqué, c'est pas tellement la disposition qui prévoit que des fonctionnaires de catégorie A qui ont 8 ans d'expérience dans le domaine juridique, hein, c'est ce qui est prévu par le texte, puissent devenir avocats. Moi, ça me pose aucun problème s'ils justifient une expérience de 8 ans. Et dans le milieu associatif, ça existe aussi, des personnes qui pendant 8 ans ont un certain nombre d'expérience. Ce qui était critiqué, c'était le décret passerelle qui pendant 2 ans, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça doit être 2012-2013, permettait à des politiques sans aucune expérience dans le domaine juridique, juste parce qu'ils avaient des responsabilités publiques, de devenir avocats. C'est ce qui est arrivé avec Guéant, notamment. Alors il y avait tout de même une condition qui existe pour tout le monde, d'ailleurs, c'est l'examen de déontologie. Il y a tout de même un examen à l'école d'avocats, mais c'est tout. Ils doivent passer l'examen. C'était ça qui était critiqué. Alors ça, c'est le premier aspect. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tout mettre. Enfin, je veux dire, un maître de conférence. On va prendre Urvoas, qui était là tout à l'heure. Il est maître de conférence. Il est garde des Sceaux. Il a été président de la commission des lois. Si un jour, il doit devenir avocat, j'en sais rien. Mais moi, ça ne me choque pas. Je pense qu'il est compétent.
C'est pas le débat,
ouais. Voilà. Donc je ne suis pas sûr que tous... voilà. Donc, après, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire quand des membres du Conseil d'État ou certains ministres, etc., vont dans des cabinets d'affaires... Qu'est-ce qu'ils recherchent ? À mon avis, il y a tout ce que tu as dit, mais il y a aussi l'idée d'avoir une meilleure rémunération, une rémunération beaucoup plus importante, de faire jouer leur carnet d'adresse, etc. Donc c'est en ça où c'est critiquable de dire qu'ils jouent pour le service public, l'intérêt général, etc., alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse, quoi.
Moi, où je n'ai pas été attentif, mais peut-être n'avez-vous pas expliqué pourquoi justement choisir ce statut d'avocat ? Qu'apporte le statut particulier d'avocat en dehors de cette parcelle, de cette passerelle qui existe ? Mais peut-être expliquer pourquoi on choisit justement ce statut en dehors d'un statut de conseil classique.
Alors, en fait, c'était plus pour avoir des paroles quelque peu réconfortantes dans un contexte qui était d'inquiétude, et notamment à l'égard des magistrats, de rappeler qu'il y a des directeurs des services de greffe judiciaire qui sont là pour aider dans le management, justement, les magistrats. C'est notre spécialité, entre guillemets, on nous forme à ça. C'était juste pour rappeler qu'on est tous une équipe, surtout depuis le décret du 26 avril 2016, qui rappelle qu'on est un service commun. Donc voilà, c'était pour dire que malgré tout, malgré cette politique, je pense que le management est en train d'entrer dans les juridictions et de façon structurée. Voilà.
Merci. Donc il y a des frontières et des sous-frontières et des sous-sous-frontières peut-être. Mais le mot de la fin peut-être en réponse à Monsieur Vaucher.
Enfin, c'est une réponse aux différentes questions. Premièrement, la question n'est pas de savoir si ça me choque personnellement ou si c'est... d'une certaine manière, la question, c'est de fait, auparavant, effectivement, ces voies qui permettaient au conseiller d'État de devenir avocat n'étaient pas empruntées. Ou quasiment pas. Enfin, c'était vraiment. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement, d'ailleurs, comme j'ai essayé de le montrer, la circulation elle-même, mais que ce qu'elle révèle, de quoi elle est le nom, et effectivement, c'est ces transformations qui fait que ça devient intéressant, à la fois pour des hauts fonctionnaires dans des carrières qui se déroulent de plus en plus dans le privé aujourd'hui, et du côté des cabinets d'avocats, de se doter de cette expertise publique pour toutes ces raisons. Est-ce que pour le décret de 80, enfin ce qui a posé débat, dans le, ce qui a, enfin, le débat, le décret que tu évoques, qui avait été le décret passerelle, en réalité, ne faisait que entériner ce qu'est l'interprétation que font les barreaux de ce décret de 91, c'est-à-dire l'étendre à tous les l'étendre aux hommes politiques, l'étendre à ceux qui pratiquent, qui font la loi, et pas seulement ceux qui font du droit, expérience juridique, et l'étendre au-delà de la question du seul diplôme en droit. Donc de ce point de vue-là, en réalité, c'était pas tellement le décret que l'interprétation que le barreau de Paris en a donnée. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à l'EHESS de son accueil. Et la parole donc est au professeur Lioncamp pour une conférence conclusive sur notre thème des frontières. Merci.
Donc je remercie beaucoup Antoine Lioncamp qui est bien sûr professeur de droit à l'Université Nanterre et aujourd'hui avocat au Conseil, mais qui est aussi, nous en sommes fiers, même si c'est moins souvent rappelé, directeur d'études à l'École des hautes études. Et donc, à ce titre, voilà, il importait que dans une de nos conférences conjointes avec le ministère, on fasse appel à son savoir et à son esprit. Voilà, donc c'est pour ça que je lui ai proposé, c'était un peu le sujet de dissertation presque, de plancher sur les limites du droit. Il a bien voulu se prêter à l'exercice et je le remercie pour nous tous. Voilà. Merci Antoine.
Oui. Alors, je ne sais pas quels sont les trois mots d'introduction que je dois vous livrer. Je suis le juriste, on va dire, pur. C'est peut-être comme ça que me regarde Liora. Et elle s'est dit, peut-être, je ne suis pas un juriste pur, mais elle me regarde comme ça. Et c'était peut-être, en effet, assez audacieux de demander à un juriste formé selon les canons des juristes, parce que moi, j'ai été formé parfaitement. J'ai mes 14 années de formation juridique avant d'être devenu... Oui, 14, j'ai compté. Ouais. Oui, je vais jusqu'à ma nomination comme professeur. J'ai 14 années, j'ai appris le droit comme on l'apprend. J'ai fait, cette expression d'ailleurs est intrigante, fait du droit, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais revenir à ça. Mais j'ai décidé, au fond, de tenter de montrer ce que le commerce avec les non-juristes m'ont appris du droit. C'est-à-dire, je voulais remercier les organisateurs. Et vous allez voir, mon dialogue, il est avec Jacques Comaille, parce que j'ai beaucoup appris de lui. Et je ne parle pas de droit, probablement aujourd'hui, complètement, comme je l'aurais fait il y a justement quelques décennies, quand je finissais cette longue processus de formation. Alors, je voudrais rappeler peut-être les deux éléments constitutifs de la culture des juristes français contemporains, parce que c'est justement contre, ou disons à distance de cette culture, que j'ai commencé à analyser d'autres mouvements, d'autres phénomènes. Le premier élément de cette culture, c'est que le droit est posé. C'est pour ça qu'on l'appelle positif. C'est-à-dire que tous les juristes formés à l'école française... Mais c'est la même chose en Allemagne, il faut se rassurer, c'est la même chose en Italie ou c'est la même chose en Espagne, pensent que le droit, il est déjà là. C'est-à-dire que quand ils se mettent au travail, le droit est là. Et il suffit simplement de l'observer et de l'utiliser. Le droit est un déjà donné là. Sauf quand on est législateur, mais aucun d'entre nous, nous ne le sommes, je crois, ici. Donc ça permet d'avoir une sorte de définition du droit que l'on ne se rappelle pas tous les matins, mais avec laquelle nous vivons. Le droit, c'est l'ensemble des propositions ayant en général une valeur prescriptive énoncées par les autorités publiques. Et ça, c'est observable. On croit que c'est observable. Et premier élément de notre culture... dont je me suis un peu éloigné, j'espère, mais a conduit, et ça n'est pas vrai aujourd'hui dans cette réunion, mais a conduit en général les juristes, un, à se désintéresser de l'amont de ces énoncés, d'où ça vient, pourquoi, comment c'est né, cette sorte de genèse, elle est oubliée, Et c'est vrai que la positivation du droit, qui est un phénomène qui est né, disons, avec le début du 19e siècle, la fin du 18e, rend les juristes amnésiques de ce qu'ils manient. On ne s'occupe plus de ce qu'ont été les facteurs qui ont contribué à faire naître quelque chose. Mais plus grave, la deuxième corollaire, c'est qu'on se désintéresse de l'aval, pas de l'amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là entre ces énoncés et le monde vécu, le monde social, la réalité, utilisez la formule que vous souhaitez. Chacune engage dans une certaine manière de penser, donc j'évite d'en choisir une. Ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément de notre culture de juriste. Et le deuxième élément, c'est qu'on pense que le droit est partout. Parce qu'il est même là quand il y a une liberté, parce que le droit nous a concédé la faculté de choisir. Donc il y a une sorte d'arrière-plan, je vais l'utiliser avec la formule de Carbonnier, qui avait une très belle formule, et les juristes sont habités par une sorte de pan-jurisme. Vous voyez, le droit est partout. Voilà. Je pense que le commerce, j'emploie le mot de Montaigne, mais le commerce avec les historiens, avec les sociologues, avec certains économistes, pas tous, et ils sont de plus en plus malheureusement minoritaires, ceux avec lesquels mon commerce se pratique, ce commerce m'a montré que si on s'en tient là, on ne comprend pas grand-chose. On comprend la culture des juristes, mais ça suffit quand même pas tellement pour comprendre justement les frontières du droit, les jeux. Bon, je vais y venir dans une seconde. Et pour faire comprendre un peu la critique ou la distance qu'il y a lieu de prendre avec cette culture, je vais partir du très beau livre, le dernier de Jacques Comaille, auquel je tenais à rendre hommage parce que c'est un vieil ami que je ne vois pas assez. Mais on a travaillé dans certaines périodes très heureusement ensemble. Il dit ceci, je reprends le point de départ. Il dit, quand on veut comprendre ce qu'est le droit et comment il fonctionne, il faut se rendre compte qu'il y a une dualité de la légalité. C'est l'expression qu'il emploie. C'est-à-dire, le droit est d'abord une référence et le droit est ensuite une ressource. Et il construit ce très beau livre qui est en livre de poche, donc tout le monde peut le lire, à quoi nous sert le droit. Il le construit à partir de cette... Il établit la pertinence de cette distinction et il l'utilise. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais ce n'est pas l'objet de notre... Tout à fait. Enfin, je vais montrer quand même ce qu'on peut ajouter. Alors, la première dimension, je l'explicite un peu, le droit comme référence... qu'est-ce qu'elle fait apparaître? Elle fait apparaître que, évidemment, le droit, c'est un ensemble de règles à distance du monde social, à distance. Et c'est cette mise à distance qui est fondamentale pour comprendre qu'elle ouvre un espace de jeu, qui n'est pas une sortie de scène, mais un espace de jeu. Et sans cet espace de jeu, vous voyez la distance entre les références, le droit comme référence et le monde social, il n'y aurait pas de débat, de discussion, de polémique. Vous voyez, je prends l'exemple tout de suite. Si le droit était un ensemble de barèmes, il n'y aurait plus de débat et nous serions en train de mourir à petit feu. C'est le monde parfait dans lequel il n'y a plus de possibilité de se reconnaître comme sujet capable de demander quelque chose. On cesse d'être un sujet pour devenir un objet de règle. Il n'y a plus de distance. Alors, ce qui mérite attention dans cette première dimension, c'est l'énonciation de ces règles. Même dans le cadre de la culture des juristes français, même si cette énonciation est l'œuvre des autorités, elles sont nombreuses, c'est le Parlement, c'est le gouvernement, c'est les juges, c'est les autorités administratives indépendantes, eh bien ce processus d'énonciation conserve de très larges parts de mystère. Si on se déprend d'une vision purement formelle en disant les règles, vous allez voir, les règles, en fait, elles ne sont pas votées par le Parlement au sens propre. C'est ce que m'a appris simplement le contact avec la littérature et les théories littéraires. Ça, vraiment, j'ai beaucoup appris dans cette maison, de ça. Je vais y venir. Donc, je parlerai un tout petit peu des mystères de l'énonciation. Mais en même temps, parmi ces mystères, il y en a un qui invite à revenir à la deuxième dimension que Jacques Comaille donne au droit, c'est-à-dire le droit comme ressource. Parce qu'il met en lumière quelque chose que nous sentons tous, alors les magistrats plus encore et les avocats que tout autre, c'est que le droit ne se réalise pas tout seul. Il n'y a pas de processus d'autoréalisation. Et moi, je préfère, alors en empruntant la formule là de Jacques, mais plutôt de Ricoeur, de dire il faut essayer de comprendre les mystères de l'effectuation du droit, comment il devient quelque chose de l'action même des personnes, de leur vie, de leur... Voilà, c'est l'effectuation plutôt. Donc c'est sur ces deux versants que je vais me promener un petit instant. Alors, du côté d'abord de l'énonciation, il me semble, c'est ça aussi que m'a appris notamment le travail avec un certain nombre d'historiens qui s'occupent de la socio-histoire des institutions. Ça a été mes premières rencontres d'ailleurs plutôt dans cette maison. Et donc, par exemple, la revue Genèse, dont j'ai vu la naissance il y a quelques, je ne sais pas combien d'années. Je pense qu'on peut distinguer deux types de règles. Et je parlerai surtout des secondes, mais la première catégorie est vraiment très intéressante à étudier, à analyser. Il y a des règles qui sont constitutives des activités auxquelles elles s'appliquent. Et on donne généralement comme exemple, quand on est dans un séminaire à l'école, les règles du jeu d'échecs. Il n'y a pas d'échecs s'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire le jeu d'échecs suppose des règles qui définissent le poids, enfin, d'abord la forme des pièces, leur mode de mobilité et leur poids respectif. Il y a donc des règles qui instituent des activités. Et elles sont assez nombreuses, ces règles instituantes. Mais au lieu de parler des plus traditionnelles, qui sont des règles qui instituent l'État, parce que l'État n'est qu'une réalité, si elle n'était pas une réalité juridique, elle ne serait rien du tout. Je voudrais parler surtout du capitalisme, là. Ça, c'est avec les économistes. Le capitalisme n'existe pas sans certaines règles. C'est le droit qui a institué le capitalisme et qui permet d'ailleurs le développement d'un certain capitalisme financier. Pourquoi ? Parce que si le droit n'avait pas inventé la personne morale, si le droit n'avait pas inventé l'autonomie de la personne morale, si le droit n'avait pas inventé la limitation de responsabilité de l'actionnaire, qui n'est responsable qu'à hauteur de son apport, qui peut donc causer les plus grands dégâts sans encourir plus que la perte de son apport, le capitalisme n'aurait pas pu vivre, même pas être inventé. Alors ça, il y a des travaux aujourd'hui très importants menés notamment entre des Anglais et des Français sur l'histoire de la société anonyme, l'histoire de ces institutions. Et d'ailleurs, sans le droit de propriété, il n'y a pas de titrisation, il n'y a pas d'invention. Comment peut-on faire circuler des dettes et faire de la spéculation sur des dettes agrégées? Donc, il y a dans le capitalisme, et c'est ça que je vais dire, un droit de l'économie beaucoup plus important à connaître que l'économie du droit lui-même. Bon, mais je ne parlerai pas de celle-là parce que c'est un sujet et vous ne l'avez pas évoqué aujourd'hui. Donc Alors, les autres règles, elles ne constituent pas des activités et ce sont des règles extrêmement diverses. Et je pense que c'est intéressant, pour montrer un peu les limites du droit, de réfléchir un instant à ces règles qui, alors, sont très difficiles à qualifier. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des objets très variables. Je prends peut-être un exemple. Certaines qualifient, elles disent ce qu'est un père. Le père, c'est le mari de la mère. Ça, c'est une règle de qualification. Je vous évite la formule latine. Elles qualifient quelquefois des choses en disant qu'est-ce que c'est qu'un immeuble ou qu'est-ce que c'est qu'un OGM, une OGM. Et parfois, mais c'est plus fréquent, elles ont comme objet des conduites. Il est donc faux, d'ailleurs, de dire que toutes les règles sont des règles de conduite. C'est faux. Beaucoup de règles sont des règles qui qualifient des choses. Bon. Mais j'en viens peut-être à l'essentiel, au-delà de cette diversité. La règle, elle n'a pas un objet tangible. C'est ça que je veux dire. Autrement dit, la règle, ce n'est pas simplement une proposition grammaticale, mais la règle, ce n'est pas non plus une sorte d'enveloppe juridique d'un énoncé. La règle, c'est la signification d'un certain message, d'un énoncé. Je pars de là parce que ça, c'est vraiment des travaux aussi de certains de nos collègues à l'école. Je parle plutôt d'Olivier Keyla. Et c'est important de retenir ça, c'est parce que ça permet de voir ce que trop vite on oublie, c'est qu'il y a une énorme distance entre un texte et une règle. Il est faux de dire le droit, c'est le code du travail, ou le droit, c'est la Constitution. Le texte, c'est un énoncé assez ouvert, et c'est de l'interprétation de ce texte qu'on inférera une règle. Et donc un texte peut faire naître 18 règles, ou peut en faire naître encore plus, peu importe. C'est dans le rapport entre le texte et celui qui le lit que naît la règle. J'ajouterais, parce que ça, c'est les linguistes aussi qui le montrent, évidemment, c'est la même chose pour un texte. L'émotion que donne un texte, c'est pas le texte lui-même, c'est le message qu'on en infère. Mais l'interprétation, elle doit être limitée. Pour qu'une interprétation soit possible, il faut des limites. Parce que sans ça, le texte ne produira jamais aucun sens. Et donc ça pose un problème que je n'évoquerai pas ici, c'est assez travaillé aussi aujourd'hui, quelles sont les limites à l'interprétation. Mais allons-y avec la question la plus difficile. Donc les règles, il en est des objets variables, les règles ce ne sont pas les textes, et les règles, elles n'existent pas si on n'accepte pas de considérer que l'activité principale qui donne sens à des textes, c'est une activité d'interprétation. La question principale pour le séminaire d'aujourd'hui, c'est, mais attendez, comment réfléchir à la force de ces messages ? Qu'est-ce que c'est qu'un message juridique ? Ça, c'est un mystère total. Non, quand vous êtes positiviste, que vous pensez le droit posé, qu'un énoncé d'une autorité publique, c'est ça qui est la monade élémentaire du droit, vous dites c'est du droit parce que c'est l'autorité qui l'a édicté. Donc vous déduisez le caractère juridique de la qualité de celui qui l'énonce. Oui, mais il y a beaucoup d'énoncés venant de l'administration, beaucoup d'énoncés venant du Parlement, il y a même des censures du Conseil constitutionnel à l'égard d'énoncés qui sont supposés ne pas être normatifs. La France reconnaît le génocide arménien. Vous vous souvenez, le Conseil constitutionnel a décidé que c'était un énoncé non juridique. Recognitif, je ne sais pas quoi. Alors, en réfléchissant à cette force, je pense que ça aussi, on va venir à l'effectuation et au dialogue avec la sociologie tout de suite. Il y a une distinction peut-être qui permet d'entrer dans cette boîte noire que peut-être vous n'ouvrez pas, et moi non plus souvent, parce que au fond, il y a un consensus du milieu professionnel pour dire que c'est une règle juridique, souvent. Et donc, on ne se pose pas la question. Mais je pense qu'on peut distinguer, et il y a un auteur qui l'a fait avec des mots que je vais lui emprunter, la valeur d'un énoncé, c'est la force que l'auteur lui donne. La valeur. Donc, quand le Parlement dit que c'est dans la loi, il y a, du point de vue de son émetteur, l'idée que ça a une valeur juridique. On peut regarder ça du côté du destinataire. Là, c'est plus la valeur, et souvent, c'est beaucoup plus intéressant de regarder du côté du destinataire. On peut peut-être appeler ça la portée juridique, non pas la valeur, c'est-à-dire quelle est la force perçue, conférée, ressenti par les destinataires. Et on voit bien que c'est très important de faire cette différence, parce que vous avez des fulminations législatives, c'est très important, et puis personne n'a l'impression que ça lie quiconque. Donc c'est très important pour réfléchir à cette qu'on appelait normativité juridique, parce qu'il y a beaucoup de normativités qui ne le sont pas. Ça aussi, les juristes, dans leur panjurisme, ne le pensent pas, mais habituellement, mais il faut bien voir l'écart qu'il y a entre la perception par le destinataire de la force d'un énoncé et la perception par celui qui l'émet. Et puis ensuite, un troisième élément, et ça va me permettre de passer rapidement à l'effectuation, il y a l'existence de garanties, de dispositifs par lesquels un énoncé est supposé pouvoir informer, guider les conduites et les comportements. Et on va entrer dans des mots juridiques que beaucoup ici connaissent très bien, opposabilité, invocabilité, sanction, contrainte. Ce qui est intéressant, c'est que probablement les trois dimensions de la force ne sont pas du tout liées les uns aux autres, parce que on voit très bien aujourd'hui que certains énoncés n'ont pas une valeur, une force juridique pour leurs émetteurs, mais qui sont assortis de garanties extraordinaires d'exécution, de contrôle, etc. Et c'est un peu, par exemple, le grand débat sur les codes de conduite ou les codes d'éthique dans lesquels ceux qui les énoncent disent non, c'est pas du tout juridique, ça n'a pas de force juridique. Et on dit même au début, la norme ISO 26000, elle commence par dire qu'elle n'a aucune valeur juridique, mais il y a des dispositifs ensuite qui apparaissent. Et qu'est-ce qui est plus important? C'est les dispositifs de mise en œuvre, de... Bon. Et là, on est déjà dans l'effectuation. Et donc, j'y passe. Alors, c'est là que je pense que ce que j'ai entendu, notamment cet après-midi, dans le petit moment où j'étais là, c'est plutôt sur l'effectuation. Il y a un mot, par exemple, que je répudierais, si je le pouvais, qui est le mot d'application. Généralement, dans la culture des juristes, vous voyez, l'énoncé est là, déjà, et tout le problème, ensuite, c'est de savoir comment il est appliqué. Et on se plaint parce qu'il ne l'est pas, et on dénonce l'ineffectivité, etc. On connaît tout ce discours qui a été très bien démonté par Pierre Lascoum et Evelyne Servarin dans un article déjà ancien. Je pense que l'application, c'est une notion très pauvre. C'est simplement l'utilisation d'une référence, on est du côté du droit référence, en raison de son applicabilité. Et elle est applicable et on l'utilise. Donc on en fait application. Oui. Mais ça ne donne pas grand-chose sur, au fond, comment les personnes, les individus s'emparent, ne s'emparent pas des règles. Autrement dit, ce qui est important, et c'est là vraiment qu'une certaine sociologie a ouvert des études très importantes, ce qui est important, c'est l'étude des conditions d'invocation. Quelles sont les conditions sociales, pragmatiques, de l'invocation. L'invocation, ça ne veut pas dire devant le juge, hein, forcément. Ça peut être dans une cage d'escalier, ça peut être dans un marché public, ça peut être dans, etc., de l'invocation de la règle et, au fond, de l'action informée par la règle, de l'action sociale, de l'action dans ce monde. Et c'est là que je pense que... on va venir aux professions dans une seconde, et je terminerai peut-être par là, mais cet espace qui est entre la culture des juristes, c'est-à-dire le droit comme référence, ce droit positif, et l'espace des sociologues qui s'intéressent plutôt à ce qu'il advient, cet espace qui constitue au fond le résultat d'une division du travail très historique, on ne va pas évoquer Max Weber qui le disait très bien, cet espace peut être par les recherches comblé. Je vais simplement proposer d'un mot, moi, ce que j'ai retenu de quelques années de fréquentation des multiples sociologies de l'école et d'autres lieux, et puis de Jacques Comaille. Je donne un exemple du type de sociologie qui permet de rapprocher le point de vue là, des énoncés, de leur application, et le point de vue de ce qui advient chez les individus, chez les personnes dans leur action. C'est par exemple toute la sociologie du formel, la sociologie de ce qui se met en forme. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on met en forme quelque chose et qu'on utilise une certaine forme. Mais je vais aller plus loin, je pense qu'il y a une manière, peut-être aujourd'hui, ça ouvre des voies très importantes de combler cet espace, c'est de s'intéresser aux actions humaines, aux actions de la vie réelle, on va dire, si ça existe, qui ont comme cœur l'évaluation, c'est-à-dire s'intéresser au jugement ordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'un tel est bien ? Qu'est-ce qui fait qu'on dit quelqu'un, il est fréquentable ? Vous voyez, nous avons dans notre vie des tas d'occasions d'effectuer des évaluations. L'évaluation ordinaire. Eh bien, ce qui mérite, à mon avis, vraiment d'être poussé, c'est des travaux dans lesquels on regarde comment ces jugements ordinaires peuvent être modifiés, transformés, par quel processus ils peuvent l'être, au nom, justement, des évaluations que le droit comporte. C'est-à-dire mettre en rapport ces normes qui servent de référence et les jugements ordinaires. Et on se rend compte que pour que ces normes transforment progressivement les jugements ordinaires, il faut beaucoup d'équipement. Beaucoup d'équipement. Et ça a été montré par des tas de travaux, notamment sur les discriminations. C'est-à-dire entre l'interdiction des discriminations, sur lesquelles aujourd'hui, plus ou moins, tout le monde s'entend, il y a des tas d'énoncés, et le fait, dans les entreprises, dans les administrations, de, disons, corriger les discriminations, entre ces, vous voyez, cet immense, on va dire, espace, il faut des équipements multiples, dans lesquels il y a des observatoires de vigilance, il y a des statistiques, il y a, sur ce chemin du droit, on va le dire, des tas de micro-institutions qui peuvent être des commissaires à la lutte contre les discriminations. Il peut y avoir des correspondants du défenseur des droits, etc. Et c'est sur ce chemin, je vais terminer par là parce que j'ai été peut-être un peu long déjà, mais c'est sur ce chemin qu'on rencontre les professionnels du droit, parce que c'est eux qui jouent un rôle majeur dans la façon de transformer éventuellement les jugements ordinaires. Et donc c'est pour ça que les professionnels du droit ont tant d'importance, à mon avis, dans la compréhension des modes, enfin, des processus d'effectuation du droit, parce qu'il faut regarder quelle est la représentation du droit qu'ont les professionnels, c'est-à-dire comment ils s'imaginent être, on va dire, puisque c'est le mot aujourd'hui qu'on utilise, à mon avis c'est faux, mais enfin, l'outil qu'ils prétendent utiliser. Par exemple, certains se voient comme des ingénieurs du droit. Ça, c'est les avocats d'affaires. Ils sont des ingénieurs. Non, ils font des montages. Il y a des tuyaux. Il y a des canalisations. Il y a des... Non, mais ils ont un langage extraordinaire, parce que c'est vraiment le langage de l'ingénieur. Et ceux que vous visiez, c'est, à mon avis, ils ne sont pas vraiment ingénieurs. Et je ne pense même pas qu'ils veulent le devenir. Mais enfin, bon, il joue peut-être un autre rôle auprès de ces ingénieurs. Il y a ceux que ma chère voisine a examinés, c'est-à-dire ceux qui se représentent le droit comme source de mise en cause de l'état des choses, c'est-à-dire des juristes protestataires. Et puis il y a quelques juristes, comme Jacques Comaille, qui sont conscients de la dualité. C'est-à-dire qu'on peut à la fois utiliser le droit comme un ingénieur, mais on peut aussi utiliser le droit pour essayer de transformer le monde. Les deux, les transformer des situations intolérables. Voilà. Et c'est évidemment les rapports mutuels auxquels vous vous êtes attaché cet après-midi, les rapports entre ces différents professionnels, leurs distinctions, leurs rivalités. Il y a, je le signale, un point qui n'a pas été évoqué, moi qui me fascine aujourd'hui, c'est le débat qui existe entre les avocats et tous ceux qui ont touché un peu de près ou de loin au droit, qui est le débat sur qu'est-ce que c'est que faire du droit. C'est pour ça que j'insistais, puisque c'est le débat sur le périmètre du droit. La loi de 1991 a donné aux avocats le monopole du conseil juridique. Et ce sont nés, en France comme ailleurs, partout ailleurs, des tas d'entreprises qui proposent leurs services aux entreprises pour dire « Je vais examiner le taux d'absentéisme et vous montrer comment on peut réduire le taux d'absentéisme. » Et qui étudie évidemment les règles sur l'absence pour cause de maladie, les contrôles d'absence. Et ils ont été poursuivis pour violation du périmètre du droit en disant « Vous faites du droit sans en avoir l'air ou sans avoir le droit de le faire. » Et donc, il y a là un contentieux extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on demande aux juges de dire, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que faire du droit pour vous? Question très embarrassante pour un juriste positiviste, parce que ça exige un tout petit peu de réflexivité. Oui, est-ce qu'il s'agit simplement de se référer au texte, d'utiliser le droit comme ressource, pour reprendre la dualité? Pour l'instant, la première chambre civile de la Cour de cassation n'a pas été tendre avec ses cabinets, puisqu'à deux reprises au moins, ou peut-être même trois, elle a estimé qu'il violait, enfin, les juges du fond avaient raison, qu'il violait le périmètre du droit. Mais, cela dit, ce qu'il n'arrive pas à dire, parce que c'est très, on va dire, auto-référé, il n'arrive pas à dire en quoi les uns font du droit et les autres aussi. Hein. Parce que, est-ce que quand vous faites, par exemple, des statistiques sur le taux d'absentéisme de telle et telle catégorie de salariés, évidemment, vous utilisez un mot absentéisme qui n'a de sens que pour un juriste. Parce que l'absentéisme, c'est la suspension du contrat de travail à raison d'un événement extérieur à la vie de l'entreprise. Donc, l'absentéisme, c'est une notion juridique. C'est une règle, là, qui est un mot qui est constitué par le droit. Hein ? Donc, quand vous faites des statistiques sur le taux d'absentéisme, est-ce que vous faites du droit? Si on suit la Cour de cassation quand elle répond oui, alors en réalité, nous sommes 63 millions de personnes à faire du droit. Alors, c'est vrai, pas forcément à titre répétitif et donc pas forcément à titre professionnel. Mais les experts comptables sont sortis ils ont une exception dans la loi parce qu'ils peuvent en faire du droit dans le prolongement de leur activité professionnelle. Mais c'est un sujet, je trouve, assez intéressant, parce qu'elle révèle que la question que les juristes pensaient avoir résolue avec leur positivisme bien ancré, c'est une question qui leur revient au visage, puisqu'il faut essayer de regarder, au fond, quels sont les éléments par lesquels chacun des professionnels du droit joue pour essayer de délimiter son périmètre, sa sphère d'action avec les enjeux. Alors il y a un enjeu, Antoine Vaucher, vous m'étonnez de ne pas l'avoir utilisé. Non, mais l'enjeu quand même, principalement, c'est les mannes du marché. Et si un ministre, un ancien ministre ou secrétaire général de l'Élysée devient avocat, c'est aussi parce que ça lui donne évidemment dans ses ressources un gain considérable. Je pense quand même que c'est un élément majeur dans la progression que vous avez évoquée. Et je terminerai par ça, c'est dans l'étude des professionnels du droit, auquel la dernière table ronde a fait écho, il me semble qu'il y a un élément assez important. C'est l'importance, ou en tout cas le rôle que joue dans la définition de l'idée que se font chacun de ces professionnels, de leur rôle, de leur champ d'action, l'importance qu'ils se font de leur fonction d'optimisation. C'est-à-dire, est-ce qu'ils considèrent que chacun d'eux doit agir et ne peut agir qu'en fonction de l'intérêt qui est le sien et qu'il cherche à optimiser, ou est-ce qu'il a une certaine bienveillance, c'est-à-dire qu'il s'occupe du bien d'autrui aussi? Et il me semble que dans ce que vous évoquez, non, mais se marque, au fond, ce qui est une des traductions contemporaines de la pensée économique dominante, c'est que les fonctionnaires, ou en tout cas certains d'entre eux, deviennent de plus en plus, à eux seuls, des optimisateurs, et donc des gens malveillants. Parce que l'optimisateur ne s'occupe pas d'autrui, il s'occupe de lui-même et de son bien-être. Voilà, c'est une petite découverte que je vous ai faite en vous écoutant. Je vous remercie de votre patience.